Voilà, toute première question pour situer un peu les choses. J'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes à Orléans.
C'est-à-dire, c'est compliqué parce que moi, personnellement, j'ai vécu, comme je disais tout à l'heure, auprès de Paris jusqu'à la guerre. Et nous sommes revenus, puisque mon père était officier, a été démobilisé, en 40. Ah oui, on avait vécu quelques années à Orléans, au moment où papa avait sa situation à Orléans, mais c'est tout.
Ça fait 29 ans alors que tu es à Orléans.
Alors ça fait 29 ans,
oui. Est-ce qu'il y avait des raisons précises pour vous fixer à Orléans?
Oui, la famille de mon père et de ma mère.
Ah bon?
Oui, les familles respectives de papa et de maman, oui.
Ah donc au fond, vous êtes orléanaise?
Et oui, je suis née à Orléans.
Ah bon?
Je suis orléanaise.
Et est-ce que d'une façon générale, la ville vous plaît?
La ville elle-même, c'est assez compliqué à répondre parce que quand on y réfléchit bien au fond, il y a des tas de choses. Non, mais je suis trop prise par mon milieu familial pour, si vous voulez, avoir beaucoup de. Enfin, trouver beaucoup de choses contre la ville d'Orléans. Une chose me plaît beaucoup, c'est la proximité de la campagne et des possibilités de promenade le dimanche où on peut s'évader un peu, qui coupe vraiment la semaine, l'année, les mois qui suivent.
Oui.
Alors moi, personnellement, j'ai rien vraiment tout à fait contre la ville d'Orléans. Et en y réfléchissant bien, il y a certainement beaucoup de choses à changer. Oui. Et à souhaiter même pour l'avenir de la ville d'Orléans.
Par exemple.
Par exemple, des arbres.
Des arbres.
On coupe tous les arbres à Orléans, c'est une monstruosité. Alors voilà, des arbres.
Oui.
Des arbres. Pour le moment.
Oui, ce serait déjà un début.
Ce serait déjà un début.
Surtout à côté de la Loire.
Oui, et puis même, vous savez, vous ne connaissez peut-être pas tous ces nouveaux quartiers qui ont été arrangés il y a quelques années là en cité industrielle et qui sont presque dépourvus de verdure, c'est quelque chose de catastrophique.
J'estime que c'est.
Oui, et puis j'estime qu'au point de vue même de la nature humaine, les arbres font partie de la vie humaine, il n'y a pas de raison d'en enlever de temps.
Et vous prévoyez de rester à Orléans?
Eh bien, pour le moment, oui, mon mari a sa situation, et vous savez, à l'âge où nous sommes tous les deux, on ne change pas de situation. De façon vraiment exceptionnelle. Je ne pense pas surtout qu'elle vient plutôt de se consolider, alors on pense rester à Orléans.
Oui. Est-ce que vous avez une profession? Est-ce que vous aviez une profession avant votre mariage?
J'ai d'abord été retoucheuse de photos.
Ah oui?
À Orléans même.
Oui.
Chez les photographes d'Orléans, qui sont des amis de mon mari d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis après, pendant la guerre, étant donné que c'était un métier qui ne marchait absolument pas, j'ai fait un monitorat d'enseignement ménager. Et j'ai professé pendant 2 ans. Après quoi, je me suis mariée.
Ah bon?
Et la maison m'a prise entièrement.
C'est ce qu'on appelle sans activité, n'est-ce pas?
Sans activité, voilà. Avec 6 enfants, c'était difficile d'en avoir une autre.
6 enfants?
J'en ai 6. Celle-ci est la seconde. Celle-ci est la 4e, alors j'ai une fille aînée qui est professeure de français également à Orléans, qui est fiancée à un futur médecin, et puis un fils justement qui est à la source comme en 3e année de sciences économiques, et puis la petite que vous avez vue là qui est une petite dernière, et un fils qui a 17 ans et qui est simplement au lycée pour le moment.
Enfin, oui, évidemment, avec 6 enfants, c'était. Vous aviez de quoi vous occuper.
Largement. Très largement.
Est-ce que, d'une façon générale, vous êtes pour ou contre l'idée d'avoir un travail en dehors de la maison?
Non, j'étais contre avant, je suis plutôt pour maintenant.
Ah bon?
Parce que j'estime qu'on est trop chez soi et qu'on n'a pas suffisamment de renouvellement intellectuel et même humain, assez de contact humain pour. Si vous voulez, avec des enfants de l'âge des miens maintenant, eh bien, il aurait fallu que je sorte plus, ou j'ai le temps plus de lire et tout ça pour mettre un petit peu au diapason des enfants.
Ah bon?
C'est difficile d'être vraiment au diapason des enfants avec les études qu'ils ont faites.
Oui, mais il faut
mon mari, oui, parce que...
modeste.
Oh non, ah, mais Babette...
Non,
mais Babette, parce que je vois par exemple la différence. Mon mari a fait des études secondaires assez poussées et bon, il est tout de même bien au diapason des enfants, moi pas. Alors vous voyez, ça, il aurait fallu que je compense par beaucoup de...
Mais maman, tu es dans un autre domaine, regarde, par exemple, tu dessines très bien,
oui,
tu es très...
très bien.
Tu ne crois pas que ça nous a beaucoup...
Tu n'es pas tellement sensible, c'est toi qui...
Oui, je crois.
Ah, si, parce qu'on n'arrive pas à suivre... Tu vois, par exemple, tout à l'heure, eh bien, je vous très franchement, tu as échangé avec monsieur quelques idées au point de vue de vos études... littéraire, bon alors vous avez employé des mots qui pour moi ont été un peu barbares, vous avez
oui,
aussi
maman, moi,
une histoire de...
parce que c'est pas un domaine d'assez unique et c'est des mots qu'on ne connaît pas, enfin, c'est pas sa spécialité je pense.
Oui mais par exemple, même, maman, on a toujours discuté avec toi. Enfin,
oui, ah ben ça,
sur n'importe quel sujet.
Oui, de ce côté-là c'était bien agréable parce que on échangeait tout de même. Mais enfin, je les aurais peut-être mieux compris si j'avais eu plus de facilité à se... Moi, je crois. C'est parce que je suis restée tout de même à un certain niveau. Alors, tout en évoluant, puisque eux ont tout de même beaucoup parlé à la maison avec leur papa et tout, bon, ben, j'étais au courant d'un tas de choses, mais si vous voulez, je regrette de ne pas avoir eu le temps d'avoir repris quelques... même beaucoup de lectures qui m'auraient mis au diapason, plus au diapason des enfants. C'est ce que je regrette le plus. Et puis un petit peu tout de même de temps personnel. Voilà, c'est mon seul regret peut-être.
Probablement. Oui. Moi, si vous aviez carte blanche, vous choisiriez quel métier, madame?
Ah, professeur de dessin.
Ah bon?
Et pour les petits.
Oui?
Oui, pour les petits. Mm-hmm. Pendant des années, j'ai rêvé que j'aurais pu, s'il n'y avait pas eu ce petit numéro 6 là, faire professeur de dessin et ça m'aurait beaucoup plu, surtout d'enseigner aux enfants, pas tellement pour leur apprendre le dessin, mais pour leur apprendre la beauté des choses.
Oui. Enfin, en quelque sorte, pour éduquer le regard, le coup d'œil.
Oui, leur faire découvrir la beauté, donc oui. Toutes les esthétique. Formes de le sens esthétique, oui, la beauté des choses, vraiment. On n'a pas besoin d'aller au sommet de l'Himalaya, je trouve, ou même à 700 km d'ici, pour trouver de très jolies choses.
Pour voir aussi la reprendre à la traduire, cette beauté.
Oui, mais il y a des enfants qui ne sauront jamais traduire, mais qui sauront voir quand même. Alors, je trouve que c'est déjà suffisant.
Oui, tu veux, tu comprends? Oui, d'accord. Oui, très bien.
Entre la traduction, si tu veux, et le...
Question à celle de les sensibiliser.
Oui.
Bien ouvrir ce domaine.
Oui, exactement. C'est nécessaire.
Ça dépend de quel milieu on vient.
Oui, et puis ça dépend aussi du caractère essentiel de la personne.
Mm-hmm. Oui,
vous voyez, six enfants, six caractères différents et six façons différentes de comprendre les choses.
Oui.
Certainement.
Évidemment.
Et une septième qui doit tenir compte des six autres.
Les sept autres.
Et oui,
Marie
compte
pour beaucoup.
Les sept, effectivement. Un peu la position, je ne sais pas. Vous devez tout de même être psychologue.
Très. Maman est très psychologue, monsieur.
Je veux bien que Babette le dise, mais moi, personnellement, je trouve que j'ai certainement commis de très grosses fautes pendant l'éducation des enfants.
Oui, maman, mais je crois que tu as toujours, en tout cas, cherché à faire, à nous comprendre, et tu n'as jamais posé une discussion telle qu'elle pu être, et tu t'es toujours, en tout cas, intéressée suffisamment à nous, justement,
oui.
Ce que tu viens de dire le prouve. Mmh. Et
oui, bah, c'est tout de même propre d'une mère de famille de s'intéresser
oui,
à ses enfants.
Oui, mais c'est pas toujours... Oui, c'est ça, on y arrive plus ou moins. Moi, je pense personnellement que tu es assez psychologue.
Vous avez le fait même de dire que vous pouvez avoir fait des erreurs.
Oui, justement.
Oui.
Est-ce que maintenant que les enfants sont plus grands, vous disposez d'un peu de temps libre?
Eh bien, je disposerai peut-être l'année qui va suivre, puisque nous avons deux mariages à la fin de l'année, d'un petit peu de temps, mais cette année, c'est complet. C'est comme les industriels, vous savez, jusqu'au mois de juin, mes carnets sont complets. Complets. Non, peut-être après, oui, le mariage de ces deux aînés, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps à moi quand même. Enfin, vous voyez, ce qui prend beaucoup, par exemple, c'est une enfant de l'âge de ma dernière. Elle a que 9 ans. Ah bon. Il m'est impossible de la laisser. Évidemment. Alors, j'aurais Antoine, je n'aurais plus qu'Antoine, celui qui a 17 ans, mais je me sentirais libre déjà depuis au moins 2 ans. Ça fait vraiment une grosse...
Que feriez-vous? Si par exemple vous aviez 2 heures entièrement à vous,
chaque une heure de dessin, une heure de lecture.
Ah oui?
Et peut-être une fois de temps en temps quand même une promenade.
Oui.
Et de la musique. Hein.
Oui, la musique aussi. Enfin, moins facilement puisque nous n'avons pas l'instrument qui.
Hein?
Ah oui, oui, mais oui, tu vois, depuis 2 ans, je peux pas dire, mais j'estime que pour ce que je fais, pour ce que j'ai à faire dans une maison, eh bien, j'ai tout de même pu prendre environ 2 fois 3 quarts d'heure de tennis le matin à 8h30. Bah, je trouve que c'est beaucoup.
Dans une semaine.
Dans une semaine. Presque régulièrement. Presque régulièrement depuis un an et demi. Un an et demi, parce que madame a commencé que en fin de saison l'autre année. Bah, vous savez, je trouve ça presque extraordinaire.
Plus
Ah bah oui, mais alors là, si tu veux, c'est compris l'un dans l'autre, puisqu'au fond, c'était ou l'un ou l'autre. Mais c'est nécessaire, parce que on arrive à un âge où, si on ne fait pas quelque chose, on se rouille. Et si on se rouille à 48 ans, eh bien, je trouve que après, c'est fini. On devient vite vieux.
C'est ça.
Si, parce que physiquement, si on se rouille, je pense que le reste suit. Quand on est jeune, on a une certaine activité, bon, ben, le corps suit tout ça, mais alors arriver au moment où on commence vraiment à vieillir, et si vous voulez, si on n'oxygène pas son corps, eh bien le reste suit, l'intellect diminue. Ah, on devient vite vieux, hein.
Quand je bouge, j'entends maman parler de vieillesse, ça m'amuse.
Mais tu sais, malheureusement, on y arrive tous les jours, là.
Ça, qui me dis-tu?
Ça s'applique à tout le monde.
Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est peut-être une façon de concevoir les choses, vous voyez. Mais pour moi, j'estime que si... Bien sûr, on a des périodes où on se sent très fatigué, mais si on ne réagit pas contre cet état de fatigue, eh bien, je pense qu'on s'enlise. Et si on s'enlise physiquement, on s'enlise autrement.
Alors, vos projets immédiats sont surtout occupés par les mariages.
D'abord, projet immédiat, les deux mariages, après on verra. Après on verra.
Vous allez peut-être vous échapper, prendre un peu de vacances.
Oui, oui, certainement pour mon mari, parce qu'il est très très occupé, il a un métier très prenant. Et... Oui, bien sûr, on en a besoin, et je pense qu'on partira quand même un peu. Alors ça, c'est vraiment la détente complète. Jusqu'à présent, nous avons eu les enfants, presque tous les ans. L'année dernière, on en a eu encore un petit peu, mais cette année, je crois que nous allons partir seule avec la petite.
Oui.
Peut-être dans les Alpes, après avoir fait 2 ans de Pyrénées, qui nous ont absolument ravis.
Ah oui?
Ah oui. Moi, j'y retournerai bien une troisième année.
Et
en
Bretagne?
C'est très loin pour mon mari, et comme je ne conduis pas, ça fait trop loin pour y aller. Nous avons été en Bretagne plusieurs années, où nous étions absolument enchantés aussi. La Bretagne est un pays qui nous a, à tous, d'ailleurs, je crois, beaucoup plu.
Que fait votre mari?
Mon mari est administrateur d'une société de chauffage urbain. La société de chauffage urbain, la SNCF.
D'Orléans.
Si, parce qu'il y en a une deuxième, mais qui est un peu, si vous voulez, une petite sœur de cette-là, puisqu'elle a été créée par la société de...
Et le chauffage urbain, c'est quoi?
Le chauffage urbain, c'est la manière de chauffer toute une partie de la ville.
Ah bon?
Voilà. Réseau.
Un réseau. Un réseau de chauffage qui chauffe toute une partie de la ville, y compris l'hôpital, y compris... le lycée, y compris des administrations. Non, la place de Gaulle.
La place de Gaulle.
Ah oui.
Oui, et puis la place de Gaulle avec la sécurité sociale et tout ça s'est chopé par le chauffage.
Alors une sorte de réseau de chauffage et on est branché comme pour le gaz, pour l'eau, pour l'électricité.
Voilà, exactement. Exactement. Exactement.
Qu'est-ce qu'il y a? À la fin de l'hiver, c'est tout.
Oui, mais c'est très raisonnable. Non, c'est vrai, ça vient pas cher d'être chauffé par le chauffage. Oui.
Enfin, les notes, il y en a toujours.
Ça, de toute façon, je crois.
Oh, du côté de l'enseignement, vous avez tout de même une certaine expérience.
Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Après 25 ans, oui. Oui, à tous les niveaux, oui.
Enfin, d'une façon générale, tout d'abord, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait enseigner surtout aux enfants à l'école?
Les sciences humaines plus que toute autre science d'abord.
Oui. Oui.
Et puis
l'éducation physique.
Ah oui, l'éducation physique, ça, bien sûr, ça c'est.
Exactement, c'est ce que je pense, je t'assure de très bien.
Enfin, ça impliquerait certaines réformes.
Oui.
Oui. T'as assez grosse même. Oh, oui. J'étais ministre. Non, ça, tout de même de grosses réformes aussi, tout de même de grosses réformes. Non, je vois par exemple, on en a l'expérience personnelle avec tous les enfants, et je vois par exemple, mon fils apprend, d'après mon mari, parce que moi je fais confiance à ce qu'il dit étant donné qu'il est lui-même un peu dans la partie, des choses absolument inutiles, alors qu'il pourrait faire du pratique. Six mois par exemple, à la dernière année de la licence, dans une boîte, ça lui serait tellement plus profitable que tout ce qu'il peut avoir à côté. Qu'il apprendra après, petit à petit, parce que le cas se présentera, mais dont il n'a pas besoin pour démarrer, pour avoir vraiment un diplôme de base, quoi. Alors, vous voyez, ce genre de réforme-là, par exemple.
On peut commencer à la maternelle.
Ah, oui.
Tu sais qu'il y a des choses très sérieuses qui ont été faites pour
vous savez, c'est Montaigne hein, qui avait dit une tête trop pleine, une tête bien faite. Il vaudrait mieux avoir une tête bien faite qu'une tête trop pleine. Je crois, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, moi, je suis vraiment pour ça. Vous savez, j'estime qu'actuellement, on leur a fait apprendre trop de choses. Bon, alors si vous voulez, permettez-moi une expression, ils bouffent. Vous comprenez? On n'a pas le temps de respirer. Puis après ça, il faut quand même vivre. Non, c'est pas possible, je crois. On demande trop à un être humain une façon d'être, si vous voulez, pour laquelle il n'est pas fait. Enfin, je trouve, personnellement.
Tu es très rabelaisienne, maman. Il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine.
Montaigne, c'était rabelais. Montaigne. Je pense que c'était Montaigne, ma belle. Mais je peux très bien me tromper.
Attends, maman, je vais
vérifier. Vas-y, vas-y. Va voir. Tout de suite.
Absolument.
Il faut vérifier. Nous sommes beaucoup pour les vérifications en famille.
Faire d'une vérification de coup, comme ça je pourrais noter le dictionnaire pour consulter.
Alors Babette, tu diras le dictionnaire et le petit Larousse illustré.
On a un autre dictionnaire.
Oui, une fois qu'il est bien vieux.
C'est lequel?
C'est un Larousse aussi. C'est un très très vieux Larousse qui date de 1800, je ne sais quel. 37? Ah non, Catherine, bien plus vieux que ça. Non, parce qu'au point de vue médecine, ça, il y a des tas de termes qui n'existent absolument pas. Alors, tout de même, en 37, on avait quand même certains termes de médecine qui existaient déjà.
Toujours sur le sujet de l'enseignement, j'aimerais savoir ce que vous pensez du latin.
Du latin?
Oui.
N'en ayant jamais fait moi-même, mais si vous voulez, je prends un peu l'opinion de mon mari et des enfants, d'ailleurs, je pense être dans le train de dire ça. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir fait du latin.
Oui.
Ce que je vois, par exemple, quand vous avez la signification d'un mot, même à expliquer la toute petite,
Bien,
quand on a fait du latin, on a tout de suite tout de même la racine, la naissance de ce mot. Bon, c'est bien plus facile à expliquer. Alors ça, c'est, j'ai l'impression que ça doit être merveilleux d'avoir fait du latin.
Et ceci, on dit souvent que c'est une formation d'esprit.
Enfin, dans quel sens? On me l'a dit à moi quand je faisais du latin et je ne l'avais jamais très bien saisi.
Je ne sais pas parce que, enfin, je sais pas, quand je discute avec des camarades, j'arrive à me rendre compte très vite s'ils ont fait du latin ou pas. C'est un peu idiot, mais en fait, ben, pas toujours vrai, mais je pense que ceux qui ont vraiment profité d'un
culturel. Mais alors là, c'est parce que tu es psychologue.
Une certaine logique,
oui.
Une certaine tournure d'esprit. Oui. C'est difficile à expliquer pourquoi exactement maintenant.
Moi je sais aussi que
donc,
ça...
Ça oblige à être plus logique d'abord, rien que par la construction latine, une certaine rigueur.
Oui.
C'est un jeu intellectuel un peu.
Mais je crois que c'est une formation de l'esprit. Justement à cause de cette rigueur nécessitée par la construction de phrases, par la compréhension de la texte. Et l'approche aussi d'une civilisation qui, ma foi, a eu beaucoup d'importance, et non seulement en tant qu'elle-même, mais aussi, si vous voulez, héritière de la civilisation grecque, dans un certain sens, c'est un tout. Et on ne peut pas parler latin sans toucher un peu au grec. J'enseigne le latin personnellement,
ah bon?
Et oui, et je sais que je serais navrée de n'avoir plus à le faire maintenant. Mais je reconnais que pendant le temps où moi-même, j'ai fait du latin jusqu'à la première. J'étais horriblement ennuyée par ce latin qui me demandait beaucoup de travail. Et
peut-être parce qu'il était mal
travaillé.
Oui.
Oui. Trop ardu, et je ne voyais surtout pas à quoi cela allait me mener et où est-ce que j'allais aboutir.
Alors même dans le latin, peut-être justement, on pourrait commencer par faire une espèce de formation humaine avec des tout petits.
Enfin, mais c'est ce qui se fait maintenant. Je voudrais que tu vois les manuels que nous avons actuellement. C'est quelque chose de formidable. Et je sais que mes enfants apprécient beaucoup, et l'année dernière, ça m'avait beaucoup amusée parce que j'avais une classe de petits sixièmes qui commençait donc, et qui m'avait demandé comment on
devient professeur de latin.
Tout le monde voulait devenir professeur de latin.
Alors, au risque de
heurter
la modestie naturelle de ma fille Elisabeth,
non,
je dirais qu'Elisabeth est très bon.
Non, c'est pas ça. Je crois que ça leur avait beaucoup plu parce que je leur avais présenté justement.
Eh bien, ma bête, je m'apprends que tu es mon professeur. Tu seras mon professeur. Ils ont trouvé ça rébarbatif et ennuyeux possible.
Si, je ne sais pas. Mais.
Les enfants peuvent la découvrir qu'à travers leur professeur, c'est pas la discipline.
Surtout à cet âge-là, oui, je crois. Mais cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'avais une petite fille qui était braquée contre le latin. Et ma plus grande joie de professeur cette année, ça a été ça, quand elle m'a dit « Maintenant, la matière que je préfère, c'est le latin. » Et ça, ça m'avait fait un plaisir fou parce qu'elle travaille pour elle-même maintenant et seule. Et elle s'amuse à traduire de petits textes dans son livre. Je trouve ça extraordinaire. Alors que pour elle, c'était une hantise. Elle n'avait pas réussi à assimiler le phénomène du démontage des phrases et de la construction, et c'était très pénible. Maintenant, elle le fait pour elle, pour son plaisir.
On ne peut pas demander davantage.
Non.
Comme réussite.
Je crois que c'est merveilleux.
Je crois que ça a été formidable.
Ah oui.
Oui, en fait, on a aimé la partie de
Quand on voit certains textes qui ont été, ou certaines paroles qui ont été dites par des ministres, eh bien, j'avoue vraiment qu'on peut un peu désespérer de l'avenir intellectuel des enfants qui viendront. Je pense que tout ce qu'ils ont dit sur le latin, ils ont proféré comme insanité, presque.
Oui.
Marc, on finit par vous demander s'il n'y a pas un certain snobisme aussi à faire du latin.
Eh bien, moi, je ne pense pas. Peut-être pour certains qui ont l'âme ou l'esprit snob, mais moi, je n'ai pas l'impression, parce que quand on y réfléchit vraiment, ben, je suppose que je sais pas, ça doit être... On devrait apprendre le français comme ça.
Exactement.
On devrait apprendre le français. Tu te rappelles, on en avait discuté une fois. Moi, je disais, au fond, les petits, on devrait déjà leur dire, ça vient de tel mot. Et les enfants retiennent énormément.
Et puis...
tout petit, énormément. Alors, c'est comme ça qu'on devrait leur apprendre.
On peut dire un secret comme ça.
Absolument.
Eh bien voilà,
Et moi, je sais qu'ils n'aiment rien tant que je leur fasse l'étymologie d'un mot. Ah, voilà. Et l'évolution à partir d'un mot latin, par exemple. Mais ils aiment ça énormément, ils aiment les petits sixièmes. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça, ça les amuse peut-être, mais ça les intéresse. Et ça leur restera, je pense.
Oui, parce que c'est là, justement, quand c'est imprimé, c'est bien imprimé. Ça s'en va pas.
Et puis, au point de vue grammaire française, par exemple, je fais constamment des parallèles. Pour la fonction d'un mot dans une phrase, c'est merveilleux de pouvoir leur donner l'équivalence en latin, enfin, leur expliquer pourquoi on a telle survivance en français et d'où cela vient. Ils le voient très bien. Et comme ils le voient, ils le comprennent davantage. Et pour l'emploi, ça donne des résultats intéressants. Je trouve que la suppression du latin serait une idiotie. Enfin, personnellement, bien entendu, en tant que latiniste.
Oh oui, bien sûr.
Excusez-moi, je vais boire. Des enfants plus ou moins équivalents sur le plan de l'intelligence, mais qui réussissent plus ou moins bien. Parce inégalement, que... à votre avis, quels sont les facteurs principaux qui sont en jeu?
Essentiellement, le caractère et la personne de l'enfant. Mmh. Parce que justement, pour des intelligences égales, vous avez par exemple chez l'un, certainement, si vous voulez, un peu de paresse, une nonchalance, disons, pour ne pas dire de la paresse, alors que chez l'autre, ça n'existe pas. Et moi, je vais vous dire une chose tout de suite, chez mes deux garçons, à intelligence égale, j'ai eu bien plus de mal que pour les filles. Les filles, je ne leur ai jamais dit, vous devez aller travailler. Automatiquement, elles le faisaient. Les quatre, même cela. Et pour les garçons, il a fallu un coup de pied un petit peu de temps en temps. Et puis alors, en seconde, en première, ça a bien démarré.
Ah oui.
Enfin, ça c'est personnel, hein. Je ne peux pas dire chez... Et, c'est personnel, et d'un autre côté, j'ai des amis qui ont 6 garçons et filles, un peu des âges des miens. Elles ont remarqué également que chez les garçons, il fallait plus forcer pour que le travail soit fait ou que vraiment ils acquièrent... enfin, ils montent un peu, tandis que pas chez les filles. Et conclusion, les filles ont plus le sens du devoir que les garçons.
Bravo. Tu ne crois pas qu'il y a aussi l'influence familiale qui joue
un peu ? Oh non, non, parce que l'influence familiale alors serait la même dans toutes les familles. Alors elle est très différente d'une famille sur l'autre, dans l'autre.
Oui, mais... Et bien... dans votre famille, ça a été la même influence familiale.
Oui, pour tous les enfants. C'est pas aussi une question de sensibilité, je trouve, vis-à-vis de l'état d'élève.
Non, parce que je crois que les enfants, au moment où ils sont élèves vraiment, pas à partir de la première, parce que c'est fini à partir de la première, ils prennent tout de même conscience de certaines choses, mais au moment où ils sont vraiment élèves, n'ont aucun rapport, si vous voulez, entre le travail qu'ils font et qu'ils doivent faire et leurs parents. Aucun, sinon une espèce de sentiment d'obéissance, après c'est tout. Et encore.
Oui.
Et encore. Alors qu'en première, ça, bon, on travaille, parce que plus tard, on acquérera quelque chose, et puis tout de même, c'est papa et maman qui permettent qu'on travaille. Vous voyez ? Je crois que ça fait tout de même une différence entre les classes primaires et les classes supérieures.
Mais maman, il y a aussi une question d'intérêt, parce que je vois...
Ça, papa vous l'a assez dit.
Oui, mais d'intérêt pour ce qu'on apprend, parce que je vois les garçons, Carl Vincent, on n'a lu que très tard.
Oui.
Il ne lisait pas, il n'était intéressé que par la vie active. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de sport et il avait beaucoup de camarades. Qu'il faisait à l'école ne l'intéressait pas. Bon, je pense que ça aussi c'est intéressant.
Mais du jour où il a compris, comme papa lui a répété 25 000 fois, qu'il ne travaillait pas pour nous et pour avoir un résultat en classe, mais pour son avenir à lui, là il a démarré. Et bien, mais peut-être que c'était jamais la concrétisation de l'affaire, mais il a compris ce jour-là qu'il fallait qu'il travaille pour son avenir.
Et à partir de ce moment-là, tout s'est développé en même temps, parce que c'est là qu'il a commencé à lire, c'est là qu'il a commencé à s'intéresser à beaucoup.
Et bien sûr. Mais pour les garçons, l'avenir n'est pas présent quand ils sont jeunes, je trouve, personnellement. Alors que les filles, l'avenir est déjà présent même quand elles sont plus jeunes. Et je crois que ça explique un peu la différence pour certains, pour tout même une grande majorité d'enfants, l'attitude qu'ils ont en classe.
Oui, mais je suis un peu plus ma famille, parce que les enfants qui sont pas organisés dans les études, bon, par contre, ici, on nous a toujours tous à travailler. Il y en a d'autres.
Oui, mais nous, on parle pour la famille, Catherine, là, pour le moment. C'est une question un peu personnelle. Oui, mais.
Justement, j'essaie de la poser d'une façon ambiguë et j'ai eu une réponse très intéressante.
Voilà, voilà, vous êtes très satisfait, donc c'est parfait, c'est toujours le mieux.
Et sur l'âge de fin d'études, vous avez des opinions?
L'âge de fin d'études?
Oui, parce que je vois que ça a été changé.
Ah oui, oui, de fin d'études, enfin primaire, quoi.
Non, 16 ans,
enfin,
obligatoire.
Obligatoire.
C'était 14 ans autrefois, non, c'est 16 ans.
Ça va être 18 bientôt.
Ah bon?
Non, pas tout de suite.
Non, moi, je n'ai pas tellement d'opinion, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est pas bien fait, je crois, c'est tout ça.
Et ici, ça ne nous concerne pas, mais dans des milieux... moins favorisé socialement, oui. Si tu veux. Il est nécessaire que certains enfants travaillent à partir d'un certain âge. Et
oui,
moi, je vois le mal.
C'est pour ça que je pense que ça n'est pas au point.
Surtout c'est pas bien étudié. Les qu'ils ont à faire en plus, c'est un programme valable. Alors, ça les envoie déjà d'aller en classe. Et en plus, on leur offre...
Ils ne font rien, ils sont
c'est
absolument...
C'est deux années passées, il y en a pas grand-chose. Alors, aucun intérêt si ça va
se... Ils sont odieux partout, d'ailleurs. Et chez eux, et en classe. Je trouve que c'est pas du tout réussi. On devrait pouvoir leur permettre de choisir, s'ils se sont faits pour un métier, par exemple, leur permettre de pouvoir apprendre leur métier dès 14 ans. Je crois qu'on a voulu faire ça pour augmenter la culture, le niveau culturel. Mais il y a des gens manifestement qui n'y arriveront pas. Pour certains, c'était bénéfique, mais je crois que c'est la minorité. Je vois actuellement le cas d'une classe entière qui sont des enfants qui attendent de pouvoir faire leur apprentissage. Et qui sont dans une section de lycée, donc qui ne sont même pas dans des classes de transition qui pourraient leur permettre déjà une formation pré-professionnelle, si vous voulez. Mais c'est absolument odieux parce qu'ils ne veulent pas travailler, puisqu'ils estiment que ça ne servira à rien. Et ne voulant pas travailler, ils sont décidés à s'occuper d'une façon ou d'autre et ils embêtent leurs professeurs et ceux qui voudraient essayer de suivre quand même. Et c'est catastrophique. Absolument catastrophique.
C'est-à-dire qu'ajouter 2 ans, ça d'un seul coup, c'est assez dramatique, enfin,
oui.
Pour nous autres Anglais, puisqu'on augmente, d'accord, mais une année supplémentaire.
Je ne sais pas si nous avons tellement.
Pas 2 ans, est-ce que c'est le système métrique
surtout
ou quoi?
Surtout que fait une augmentation, bon, c'était décidé comme ça, mais rien n'a été prévu pour, si vous voulez. Il y a encore les vieilles structures pour une chose nouvelle, comme partout d'ailleurs. Alors, l'enseignement aurait été repensé, il y aurait eu un cycle plus long, mais ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Plus on a de formation générale, mieux on serait dans la vie après. Une formation générale, plus les enfants plus, parce qu'il n'est absolument pas adapté à ce qu'ils demandent. Ça va bien.
Justement, cette classe de 5e dont je te parle, je pourrais faire quelque chose, mais alors pas dans le cycle où ils sont. Et, dans des classes différentes, avec des matières différentes, qui les prépareraient à cet apprentissage d'une façon beaucoup plus valable. Tandis que là, manifestement, ils perdent leur temps, et ceux de leurs camarades, et ceux de leurs professeurs, et tout le monde est mécontent, finalement.
Oui. Oui. Mais toujours à propos de ces changements, est-ce que vous pourriez me mettre au courant de toutes ces cibles qui surgissent, CEG, CES, qu'est-ce que ça va avec le lycée?
Eh bien, le lycée reste traditionnel.
Oui.
Le CEG, c'est un cours d'enseignement général qui s'arrêterait au niveau de la 3e.
Comme l'ancien complémentaire.
Ah non.
Non.
Le complémentaire, c'est...
Si, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ah bon? Ah bon.
Mais alors, les classes de type CEG ont un enseignement beaucoup moins fort. Disons que le niveau serait en principe moins élevé. Le CES, c'est un cours d'enseignement secondaire. Alors là, pour la préparation, je crois que c'est pour dédoubler tout simplement les classes de lycée et pour permettre la préparation d'une façon plus
régionale. Oui, avant l'entrée au lycée, parce que les lycées, voilà, c'est une question d'effectifs. On établirait des CES, donc dans les petites villes, pour permettre aux enfants d'aller jusqu'en troisième ou en seconde, et à partir de là, ils pourraient émigrer dans les grandes villes et terminer leurs études au lycée.
Alors que le CEG peut permettre plutôt aux enseignements techniques
et voilà, comme ça. C'est ça.
Enfin, je pense.
Ah oui. Bon. Oui, pas technique, non. Collège d'enseignement général, disons que ça correspondrait...
Si, c'est un cycle.
Oui, c'est un cycle. Ah oui. Donc, oui.
Peut-être voulez-vous vous rapprocher un peu avant qu'on continue, monsieur.
Excellente idée, madame.
Que voulez-vous? J'ai du raisin, de l'ananas, de l'abricot, du pamplemousse et de l'orange.
Du raisin, s'il vous plaît.
Du raisin. Avec, qu'est-ce que tu peux faire?
Pamplemousse.
Si vous voulez mettre un peu d'eau avec ou si vous voulez le boire comme ça, il est bien frais.
Le minimum c'est 15 ans. Pour l'instant, et l'âge normal de fin de secondaire, c'est 17-18 ans. Ça varie évidemment selon les cas.
Ah, bah, faut aller chercher un autre.
De bac ou
non,
de secondaire,
on a un autre.
19
ans. Catherine, qu'est-ce que tu peux faire? Abricot? Ananas. Non, ça va. Ça, c'est pour Babette, ça. Raisin. Alors, Marcus, raisin. Ça, c'est pour toi, ananas, Catherine. Voilà. Isabelle, raisin. Je vous en prie, monsieur. Rafraîchissez-vous sans attendre. Ouais. Oui, t'as couru, t'étais toute rouge. Mais tu laisseras pour tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas laisser dans la boîte, tu vois. Ça, voilà, c'est un petit peu d'eau. Est-ce que je vous en donne un peu, monsieur Debo? Un petit peu. Attention à toi. Ça. Voilà.
Ah oh non, merci, non.
Pas
ça,
de
ça
glace.
Va très bien, non. Tu en veux, toi?
Vous avez, comme il y a des garçons, des filles, vous avez des... C'est une université, vous avez les deux.
En faculté, alors, c'est la version mixte. Puisqu'il s'agit de langue moderne, il y a une majorité assez nette de filles.
En France, c'est littéraire. Très honnêtement, il y a, je crois, 75% de filles au moins d'un
titre. Oui, oui.
Mais est-ce qu'il existe des écoles, alors cette fois secondaires, qui sont mixtes en Angleterre?
Ah oui.
Mais je trouve ça mieux que les écoles garçons-filles séparées, personnellement.
Alors, admettons que les écoles à ségrégation existent. Encore, mais ça va durer très très longtemps.
Parce qu'en France, encore maintenant beaucoup, il y a beaucoup de lycées qui sont lycées de garçons et le lycée de filles.
Mmh. Oui, mais tu vois, de plus en plus, il y a des classes qui acceptent les filles. Moi, je vois même au lycée.
Oui, mais c'est encore une exception.
Combien il y a cette année de filles qui ont été dans les classes de mathématiques supérieures et puis de...
Oui, puis l'autre chose comme ça, il y a une
compte de lycée. Dès que tu as une ville un peu importante, il y a deux lycées, c'est le lycée de garçons, le lycée de filles. Bien sûr, il peut y avoir des interférences pour certaines classes, mais en principe, tu as le lycée de garçons, le lycée de filles. Et dans les plus petites villes, le lycée mixte se fait plus facilement, c'est une question d'effectif.
Oui.
Uniquement. Mon point de vue.
Est-ce qu'il y a une tendance à établir des écoles polyvalentes?
Qu'est-ce que vous appelez exactement école
polyvalente? Enfin, j'emploie le terme parce que c'est un phénomène en Angleterre et justement la directrice d'une de ces écoles anglaises dont je parle a employé en français le terme école polyvalente. C'est une école énorme qui fait à la fois lycée, collège, collège c'est là, qui prend tous les niveaux, qui prépare tous les diplômes et qui permet surtout aux élèves qui développent à des âges différents de faire la transition d'un programme à l'autre.
Ah oui, d'accord.
Si par exemple il y a l'enfant qui mûrit plus tard que ses confrères, au lieu de se trouver parqué dans un cycle court, il aurait l'occasion de faire la transition.
Oui, mais justement,
toujours dans le même établissement.
C'est un très gros problème actuellement et on en a traité au dernier conseil d'orientation. Au lycée où j'enseigne, et justement c'est un problème affreux parce que une fois que les enfants sont partis dans un enseignement court, l'échange est pratiquement impossible. Or justement il s'est avéré que des enfants qui avaient été transférés en cycle court se sont révélés meilleurs élèves qu'on le pensait et auraient eu des possibilités de continuer, donc de revenir dans un cycle long. Et certains ne l'ont pas pu. Et c'est vrai pour la plupart des cas.
Alors c'est exactement le même problème, mais c'est, si vous voulez, la tentative de solution du côté anglais.
C'est une solution intelligente.
Oui. Opposée avec acharnement. Hein,
bien entendu, mais la solution proposée est intelligente. Moi je trouve que ce serait excellent.
Et en même temps pour essayer d'éviter le stigma.
Oui.
Qui est attaché au cycle court, parce que tout le monde va dans le même bâtiment.
Oui, c'est la différence entre cycle court, long, technique, tout ça. Et les gens qui appartiennent à un certain cycle regardent de haut les autres, technique étant considéré les parents pauvres.
Absolument.
Et ce que vous avez dit en français, stigma, qui est assez bizarre comme mot, enfin qui ne nous a pas mis à l'idée, mais dit bien justement ce que ça... Ça veut dire,
ça, c'est
les enfants sont marqués, quoi. Les enfants sont marqués parce qu'ils sont ensemble
beaucoup.
Exactement, marqué une maladie.
Quand on a des réunions des conseils d'orientation qui réunissent donc des professeurs pour toutes les classes, c'est-à-dire toutes les classes de 6e, que ce soit cycle long, cycle court, CET, CEG, mais c'était épouvantable de voir comment les uns méprisent les autres, et etc. C'est très mesquin.
À cause de différences de formation.
Oui, et puis justement, l'enseignement technique en France est considéré, comme Catherine le disait, comme un parent pauvre, et c'est quelque chose d'un peu...
C'est une déchéance de
faire
l'enseignement technique, on n'est pas capable de faire autre chose que
quand
on fait l'enseignement
et technique. Je crois que c'est assez profond, comme malaise.
Pourtant, on pourrait dire que sur le plan pédagogique, il faut encore plus de ressources.
Davantage d'aptitude et davantage de qualité dans l'enseignement technique, ça, j'en suis persuadée.
Je ne sais pas si on peut dire davantage ou moins dans un cas comme dans un autre.
Je ne sais pas, il aurait fallu que tu sois en contact avec tes professeurs différents, tu rêves. Parce que j'ai eu justement l'occasion d'en discuter dans ces derniers conseils d'orientation, et on était tous unanimes à le déplorer, en fait, mais... les solutions qui étaient proposées pour l'année scolaire nouvelle n'apportaient absolument rien de nouveau et au contraire renforçaient les barrages justement qui auraient permis des échanges beaucoup plus complets. C'était quelque chose d'assez grand.
Et il y a évidemment une autre chose qui frappe un étranger qui vient en France, c'est sans cibler les deux systèmes parallèles d'enseignement. L'enseignement d'État et l'enseignement privé ou libre, selon l'étiquette que l'on y colle.
Oui.
Au fait, vos enfants à vous sont passés de quel côté?
Eh bien, les filles dans l'enseignement libre jusqu'au bac, et les garçons à partir de la 7e, enfin ils ont fait leur petite classe en école libre, et à partir de la 7e au lycée.
Ah bon?
Pour une raison personnelle à ce moment-là, de famille, c'est que dans le lycée où nous avons mis les garçons, il y avait un aumônier catholique extraordinaire. À ce moment-là.
Ah bon, voilà.
Et de plus, à ce moment-là, nos moyens ne nous permettaient absolument pas de mettre les garçons dans une école privée, parce que les charges étaient tout de même assez lourdes, alors que j'ai eu beaucoup de compréhension de la part des supérieurs de l'enseignement dans lequel étaient les filles.
Comme c'était
pas ensemble à ce moment-là.
Peut-être aussi, il y avait le fait que le collège privé pour les garçons, certainement moins bien, ça lui
défie. Oui, peut-être aussi. Enfin, c'est-à-dire, il avait peut-être aussi une étiquette qui n'était
une
pas...
Assez...
Oui.
Alors, votre choix, ça a été motivé surtout par, par des considérations
familiales et puis alors d'ordre.
Qualité de l'enseignement.
Oui.
Et puis oui, religieux. Là,
vraiment. Et puis religieux, je dis bien, j'ajoute, oui.
Oui, enfin, je pensais surtout au fait que les garçons étaient passés du côté libre au côté de l'État.
Alors, oui. Alors là, pour la qualité de l'enseignement. Doublé justement pour, enfin pour nous, je vous dis à ce moment-là, de, du fait qu'il y avait dans l'établissement un aumônier religieux extraordinaire.
Ah oui.
Ah oui, extraordinaire.
Et sur le plan général, parce que les choses changent assez vite, qu'est-ce que vous pensez de la participation des élèves au conseil
Oui.
Le conseil d'administration des écoles.
Eh bien, moi je trouve qu'on a, enfin, on ne doit pas mettre les enfants trop tôt dans ce genre de système de contestation, pour employer le mot très à la mode, parce qu'ils n'ont pas encore assez de vues, positives et négatives, sur leur vie et les conséquences que leur vie scolaire et les conséquences qu'elle en aura. Alors que tout de même, les parents qui ne les laissent pas en dehors de toutes ces questions-là, et qui, eux, prennent la responsabilité, c'est à ce moment-là aux parents à faire partie des réunions. Après, quand les enfants sont plus grands, à partir du bac et tout ça, c'est tout à fait d'accord.
Oh, non, non,
mais pas trop tôt.
Mais pourquoi tu as dit tout de suite contestation, participation, ça ne veut pas dire...
En fait, non, je n'ai pas dit participation du tout, j'ai dit simplement contestation. Mais la contestation, actuellement, c'est un mot qui ne veut rien dire et qui veut dire beaucoup trop de choses pour les jeunes. Mmh. On conteste parce que c'est la mode et on conteste parce qu'on est en permanente révolte envers l'autorité, quelle qu'elle soit, les parents, les états religieux, tout, absolument tout. Eh bien, à 9 ans, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, un enfant ne doit pas, ça ne rentre pas dans son état d'enfant. L'éducation, c'est tout de même aussi un peu l'autorité, même un peu beaucoup, et on a laissé trop justement l'autorité de côté. Alors, eh bien, actuellement, je trouve que c'est en dehors de... Enfin, pour moi personnellement, en dehors de la question. Après, oui.
Justement, en intéressant les enfants à l'administration du lycée, tu leur apprends pas...
Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Par les parents à cet âge-là, après eux-mêmes.
Ils peuvent avoir un contact direct même à 9 ou 10 ans. Ça n'empêche que participation, il y a très bien l'autorité des professeurs qui reste, etc. Et au fond, leur autorité se remontera d'autant plus qu'elle ne sera pas arbitraire et que les enfants verront...
Bon, alors ça c'est ton point de vue. Pour moi, c'est un point de vue très différent parce que j'estime qu'à cet âge-là, on apprend trop vite la notion d'anarchie.
Actuellement, c'est...
La très bonne éducation, Catherine, ce que j'appelle l'éducation, le mot, l'éducation, hein, la très bonne... Mais, c'est tout de même à base d'obéissance. Tu n'as pas demandé à une enfant de 9 ans son avis sur telle ou telle chose. Tu lui dis, ma chérie, tu dois obéir, tu as l'âge d'obéir. Bien sûr, si elle n'aime pas les chaussures rouges, je ne vais pas lui en acheter d'autorité. Tu vois un peu le genre, c'est exactement la même chose.
Mais non, maman, parce que je crois que dans le système de participation, on veut leur faire comprendre ce qu'ils font.
Les enfants ne peuvent comprendre qu'à un certain âge, surtout ce genre de choses-là. Or, j'estime que c'est trop tôt. De leur demander leur compréhension pour certaines choses.
Comme on explique le français à des petites 7 ans d'une certaine façon, et après à 20 ans, tu le fais autrement.
C'est d'accord, mais je trouve que pour vraiment participer valablement à ces conseils, pour vraiment donner des idées intéressantes de la part des élèves, et non pas des petites choses stupides et idiotes, eh bien, il faut qu'ils aient un certain âge. Il faut qu'ils soient rendus compte d'un tas de choses.
Parce que je trouve que la réforme s'est faite trop vite et... Les enfants n'étaient pas du tout adaptés à ce qu'ils avaient
à faire.
Mais si on s'y prend justement de bonne heure, ça s'établira très bien, je crois.
Mais alors à ce moment-là, j'estime qu'on doit faire d'abord l'éducation des parents, leur disant vous ne laissez pas vos enfants en dehors de toutes sortes de questions.
Ah, mais alors là, je suis
vous en discutez avec eux, première préparation normale par la famille, et après, Ils contesteront avec les professeurs ou ils iront discuter.
Ils ne vont pas forcément contester.
Non, mais moi je dis contestation, mais discussion.
Actuellement, tu as raison, en pratique, parce que c'est la plupart des choses qui se font. Moi, je sais, parce que ça se passe dans le lycée où je suis, et les élèves qui sont admis au conseil d'administration sont là pour critiquer.
Oui.
Ceux qui ont assez de courage pour le faire, disons, parce qu'ils discutent beaucoup dans leur petit, entre eux, dans leur petit groupe, etc. Et quand il s'agit d'exposer clairement leurs idées, soit ils sont affolés, soit ils tombent dans l'anarchie pure et simple. Bon, d'accord. Mais c'est ce qui se fait actuellement. Mais parce qu'il n'y a eu aucune préparation.
Bon, alors je suis d'accord, mais avec d'abord une préparation.
Mais je crois que c'est pas là,
les parents qui croient leurs enfants, et puis après ils commenceront.
Et tu sais, même si on a.
Mais pas d'emblée dire à des enfants, vous êtes en classe de 9e ou de 7e ou de 6e, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît, c'est complètement stupide.
Mais moi ça m'arrive souvent de dire, de faire choisir à mes élèves, par exemple, entre deux textes, je vous propose deux textes, quel est celui qui vous tenterait le plus, et c'est la majorité qui l'emporte, mais. Leur impose pas toujours ce qu'on va faire.
Ça, c'est très différent.
Ça relève du même principe.
Oui, mais c'est très différent.
Ça relève du même principe, à mon point de vue.
Il faut faire attention à la démagogie aussi.
Ah oui, mais il ne s'agit pas de démagogie, mais.
Oui, mais justement, les professeurs en ce moment font beaucoup de démagogie. C'est pour ça que les élèves et les professeurs se cassent la figure en même temps, parce qu'aucun ne prend ses responsabilités. On aurait besoin des professeurs qui nous laissent faire parce que vous avez.
Parce qu'ils ne veulent pas prendre. Oui, ils ne veulent pas endosser.
Maintenant, mais d'accord, bon, ben, les professeurs ne sont pas du tout là pour diriger. Ils n'ont pas compris que même sans crier très fort qu'on avait plus besoin d'eux, en fait, ils avaient un rôle de
Vous avez des difficultés avec vos élèves vous-même?
Oh, à ce niveau-là.
Oh, c'est merveilleux là.
À ce niveau-là,
c'est plutôt mes collègues qui ont des difficultés avec.
Hein? Pourquoi?
Parce que nos étudiants réclament davantage de français contemporain.
Ah oui, c'est très bien comme pour nous,
n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui.
Enfin, ça, c'est une autre histoire. Non, il y a des remous, évidemment, qui sont en général assez localisés, il n'y a rien de national.
Vous n'avez pas eu de flambée, oui, nationale, comme il y a eu même en France.
Non, non, ça s'est produit dans 5 ou 6 facultés, mais pour des raisons précises, qui, en dernière analyse, ne dépassaient pas le cadre de la faculté en question. Donc, selon le cas, moyennant une certaine compréhension, une certaine souplesse de la part des autorités, il a été possible d'entamer le dialogue et d'aboutir à quelque chose de plus ou moins acceptable.
Oui.
En attendant les prochains éclats.
Les Anglais, gens de juste milieu, de sang-froid.
Je sais pas
ce non, et peut-être pas ce genre de choses.
Immobilisme.
Ah non, sans parler d'immobilisme, je souhaite même que pour vous ça évolue aussi, enfin, du bon côté, mais sans éclat et sans ennui, sans.
Mais je crois que est-ce que c'est vrai que les Anglais sont quand même assez conservateurs dans l'âme?
Je connais très peu d'anglais.
Ah bon? Alors avec ça.
Vous êtes anglais vous-même? Vous n'êtes pas anglais, vous êtes.
Point sur les îles écossais.
Ah, voilà, voilà. C'est déjà pas du tout la même chose.
Alors, c'est un peu comme si on allait prendre un peu de temps pour un journal.
Absolument, absolument.
Exactement, exactement. Ah, mais vous auriez dû commencer par nous dire votre nationalité. Vous auriez dû commencer par là.
Je présente le passeport.
Voilà. Oui, très bien.
Mais enfin, Orléans, la ville d'Orléans.
Oui.
Est-ce qu'à votre avis, on fait assez pour les habitants?
Vous savez, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que si c'était vraiment local, si vous voulez, moi je suppose que les autorités locales feraient pas mal de choses. Les autorités locales dépendent beaucoup trop du gouvernement actuel.
Ah bon?
Ils sont absolument freinés, ne peuvent à rien faire. Mon mari, qui tout de même connaît bien le maire et qui a eu tout de même pas mal d'acquaintances, toutes ces réunions et tout ça, et qui sait tout de même pas mal de choses véritables, enfin pas par la bande et pas fausses, eh bien, c'est vrai, vous savez.
que ça risque de changer du moment qu'il y aura
un autre
gouvernement, la régionalisation.
Oh là, parlez pas ça. Alors non, parlez pas ça. Non, un autre gouvernement, c'est tout.
Pas de politique.
Non, mais c'est même pas de la politique, ça, non, parce qu'on dit régionalisation à l'heure actuelle, parce que ça a été lancé, c'est le grand mot, etc. Mais ça recouvre absolument rien.
Ça recouvre une autorité gouvernementale par l'intermédiaire du préfet.
Oui.
Aussi puissante et aussi présente.
Et aussi présente que, alors donc,
quelque
chose zéro, quoi, vous comprenez.
N'en parlons pas, je crois que ça vaudrait mieux.
Par le ministre de l'Intérieur, donc c'est tout dit. Ils sont à la seule.
Non, alors,
les pouvoirs seront accrus par cette régionalisation.
Alors à l'heure actuelle, il faut un changement de gouvernement pour que les provinces et les villes importantes de provinces, telles qu'Orléans, qui a tout de même en quelques années créé une université, recréée, puisque du temps de Saint-Yves, l'université existait, eh bien, vraiment...
Vous
avez visité l'ancienne université?
L'ancienne?
Oui, Orléans, vous n'avez pas visité l'ancienne... On vous a même pas fait visiter ça? Derrière la cathédrale.
Oui. Saint-Pierre-de-Martroi.
Non. Pas du tout, Catherine. C'est la rue qui va vers la préfecture.
Étienne Delay.
Étienne Delay.
Ah non.
C'est tout le vieux quartier d'Orléans.
Criez très fort qu'on aille vous montrer ça. Alors l'université,
l'ancienne faculté de droit,
de Saint-Yves.
Pourtant, je prends cette rue tous les jours.
Oh, à gauche.
Mais maman, est-ce que les bâtiments du rectorat n'ont pas...
Non. L'emplacement de l'ancienne faculté est resté.
Le rectorat, c'est un peu plus loin.
Le rectorat?
Oui, c'est un peu plus loin sur la gauche.
Rue Saint-Étienne.
Rue Étienne Delay, rue Saint-Étienne.
Oui, c'est ça.
Alors, on laisse tomber.
Oui, je trouve que ça vaut mieux.
Sur le plan social, est-ce que les différences entre les classes sont très marquées à Orléans? Ou entre les milieux?
Étaient plutôt que ne sont à l'heure actuelle.
Ah oui.
Oh, si. Si, Catherine. Si, quand même. Si, il y a une différence entre l'Orléans de mamie. Et l'Orléans d'avant-guerre et celui de maintenant. Mm-hmm. Il y a toujours, comme dans toute ville de province, je crois. On est pas reçu dans tous les milieux, ou si vous voulez, nous ne recevons pas et nous ne sommes pas reçus, nous ne sommes absolument pas mondains, pas assez peut-être, mais je veux dire à ça, si vous voulez...
Il y a beaucoup de clans.
Il y a quand même des clans. Oui, certaines personnes ne recevront pas certaines autres personnes. C'est comme dans toute ville de province, je pense, sans faire une exception pour Orléans. Mais c'est certainement, ça s'améliore certainement. Pourquoi? Parce que, si tout de même, les enfants qui vont venir ont été brassés beaucoup plus les uns avec les autres que nos générations à nous. Et donc, vous vous rencontrerez plus facilement quelques professions que vous ayez.
Moi, je trouve que c'est encore très fermé.
Parce que, tu sais, on a bien été aussi avec pas mal de gens de la haute bourgeoisie, parce que dans l'école libre où on était, il y avait pas mal de...
Mais alors là, Catherine, tu regardes juste un petit côté de l'affaire.
Mais c'est important parce que justement.
Non, regarde, on peut tout de même arriver à avoir des relations, soit avec des commerçants, soit avec des gens beaucoup plus simples, soit avec. Si. Mais il y a tout de même, il existe certainement encore à Orléans. Il est un petit peu difficile d'en parler parce que nous ne serons pas beaux et on n'est pas reçus, mais tout de même, encore un clan, mais qui existe dans toutes les villes. Qui n'est pas spécial à Orléans.
Il y a pas mal de quartiers aussi qui ont. Enfin, je ne sais pas l'impression que ce soit très ouvert sur le reste de la ville. Des quartiers comme l'Argonne, tout ça.
Si tu veux, les quartiers vivent un peu entre quartiers, à moins que tu connaisses quelqu'un qui habite dans l'Argonne.
Oui, mais justement, il y a des quartiers par place sociale, pas tout à fait, mais enfin un petit peu quand même.
Je pense que c'est plus brassé qu'il y a quelques années parce que. Non, c'est plus brassé du fait qu'il y a eu beaucoup de constructions nouvelles et beaucoup de quartiers qui se sont transformés par le fait d'implantations ou de constructions récentes. Eh bien, non, moi je trouve que... Non, tu vois, je ne suis pas si catégorique que vous.
C'est difficile d'avoir une vie d'ensemble.
Vous dites que c'était beaucoup plus marqué avant.
Ah oui.
Dans quel sens?
On se déclassait du temps de mamie, par exemple, de ma mère, qui a, vous voyez, 77 ans. Alors, vous voyez un petit peu le... Eh bien, on se déclassait si on allait chez madame une telle qui n'était pas de son rang ou qui n'était pas reçue ou qui... Voilà, c'est tout. C'était stupide. Moi, je trouve que c'était uniquement une histoire de convention et de... et de, d'attitude sociale, ça ne recouvrait rien, ça n'avait aucune motivation, personnellement, je trouve.
Si c'était une question d'argent et de...
Eh bien oui, mais uniquement, ben, c'est quelque chose de très factice, c'est une façade,
mais
c'est tout.
Toi, maman, mais...
Mais il y a beaucoup de gens qui... Je reconnais que c'était comme ça, moi je donne mon opinion personnelle, c'est tout, c'était comme ça, et voilà.
Il y avait vraiment un clan... De grandes familles d'Orléans, disons de vieilles familles orléanaises, appartenant à la haute bourgeoisie, qui se recevaient entre eux et qui tenaient soigneusement les autres à l'écart. Et c'était très fermé pour y entrer, même si vous étiez une famille honorable et très...
Oui,
et venant d'ailleurs, c'était très très difficile.
Oui, justement, on dit que les Orléanais sont très fermés, etc. Ils étaient, parce qu'ils sont tout de même plus ouverts, c'est exact.
Je trouve que l'Orléanais est assez méfiant quand on l'aborde, quand on ne connaît pas quelqu'un, et s'il est resté toute sa vie à Orléans, s'il est vraiment vieil Orléanais, je trouve qu'il est très difficile
aussi,
de l'aborder.
On a dit aussi quelque chose des Orléanais qui se réservaient justement pour donner leur meilleur miel à ceux qui deviennent leurs amis.
Ça c'est vrai. Ah oui, il paraît que les Orléanais sont très très fidèles en amitié une fois qu'ils ont...
C'est une très belle formule d'ailleurs.
Oui. C'est vrai, une fois qu'ils ont accepté
et
quelqu'un,
je crois justement qu'au fond, oui.
On a installé,
Ah oui.
C'est, je pense que peut-être la qualité principale des Orléanais, c'est la fidélité. Mmh. La fidélité à des tas de choses, ne serait-ce qu'au fait de Jeanne d'Arc.
Oui, c'est pas mal ce qu'il fait.
Comme tout. Ma foi, oui et non, enfin les enfants, en tant que scout, en tant que guide, Dominique, oui, et puis...
En tant que Jeannette.
En tant que
Jeannette,
oui. Mais non, c'est comme le reste,
oui.
Mais c'est une chose qui ne peut plus être parce que... pas assez enfermé dans une tradition que les gens chérissaient. Alors maintenant, la tradition va se perdre et ce sera...
Oui, c'est...
Non, ça se terminera.
Non, ça tourne légèrement à la foire et...
Peut-être aussi parce que la ferveur religieuse diminue un peu aussi.
Parce que ça va
essentiellement religieux. Jeanne d'Arc, qui avait des livres Orléans, a été acclamée exactement comme une sainte. Donc, si vous voulez, ça part de là. Alors...
C'était aussi un peu patriotique et je crois que le sens patriotique
diminue également. C'est ce que j'allais dire sur le plan même des armées. Eh bien, vous savez, on n'est plus tellement enthousiaste.
Oui.
C'est peut-être pas un mal, ça, à mon point de
vue. Oh, ça, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais enfin, c'est autre chose, moi. Je suis un petit peu spécial là-dessus, peut-être. Oui, enfin, officier, c'était tout de même assez différent. Mais enfin, quand même.
Oh, remède.
J'ai l'air très malheureuse aussi.
Non.
Je ne dirais pas que vous êtes une mère accablée.
Non, n'est-ce pas? C'est gentil, ça.
Les optimistes.
J'avoue, une chose qui m'a frappé en arrivant à Orléans, ça a été de voir cette série de 12 vitraux dans la cathédrale. Les 12 vitraux qui montrent le passage de Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Mais c'est toujours en parallèle avec les stations de la croix.
Eh? Ah oui?
Je sais pas pourquoi ça relevait du blasphème.
Oh non, c'est peut-être parce que vous y avez attaché une importance comme ça. Je pense pas que c'était...
Enfin, la coïncidence.
Oui, non, je pense pas.
Le chemin de croix de
oui,
absolument. Le calvaire de Jeanne
d'Arc. Oui.
Je sais pas, ça m'a jamais frappé.
Oui. Non, pas tellement, moi non plus, non. Vous les avez trouvés beaux, les vitraux? Bon.
Avant 50 ans, hein.
Bon. Ah, ben c'est bien, ça, vous ne jugez pas, c'est une bonne, là. Ça, c'est très bien. Ah, c'est très bien. Oui. Attendons quelques années. Bon. Je ne sais pas s'ils vieilliront bien.
Je crois que pour l'instant, il vaudrait mieux ne pas trop les regarder, parce que...
Vous ignorez, tout simplement.
70 ans
mmh. Oh, je sais pas.
Dans les 60 ans, je crois que c'est la fin du siècle dernier. Mmh. Enfin.
Vous reviendrez à ce moment-là.
Dans les 60 ans, je crois que c'est la fin du siècle dernier. Enfin.
Vous reviendrez à ce moment-là, vous nous donnerez votre avis.
Alors rendez-vous pour le 69, 2019.
2000
L'an 2019.
Oui, c'est pas mal ça, on vivra encore un peu.
Mmh. Tu crois qu'il vivra encore
non. Attends, l'an 2000, dans 30 ans,
je
sera tout juste. Hein.
Ah oui.
Oh, oui.
On s'approchera.
Bon, attendez.
Dans ce cas-là, on passe au tome 2.
Oh, il y en a comme ça combien? 10?
Non, 3, c'est tout.
C'est des questions très précises.
Cette fois-ci, ce sont des questions assez précises.
Réponds pas, oui ou pas.
Ah, voilà, c'est ça. Faut discuter.
Selon le cas.
Faut être sérieux.
Très bien.
On va tout de même que je tourne la bande. Bon, ça a l'air d'aller. Oui, la toute première question, il s'agit du dictionnaire. Alors, des dictionnaires, oui. Le petit Larousse illustré, vous avez dit, et le Larousse en deux volumes. Le Larousse en deux volumes, qui est là depuis toujours.
Non, pas depuis toujours. Ah non, qui est là depuis environ 17 ans, parce que mon beau-frère... Non. Avait pris les deux volumes de mon beau-père au moment de sa mort et on avait racheté tout de suite parce que c'est vraiment indispensable dans une maison, deux volumes enfin qui étaient très anciens.
Il y a aussi l'encyclopédie médicale.
Oui, alors on a une encyclopédie médicale qui est.
Et qui est-ce qui se sert le plus souvent des dictionnaires? Où est-ce qu'on peut dire?
Il y en a, c'est pour les mots croisés, d'autres c'est pour leurs devoirs. Le troisième, c'est... Il y en a, c'est pour à la suite de discussion. Ou même quelquefois quand on joue au Scrabble.
Ah oui.
Ou même quelquefois à la suite d'une lecture, un mot compliqué quand on va parler.
Oui, c'est ça,
on t'écoute. Et toi, quand tu ne sais pas un mot, ma chérie, alors ça, c'est son plaisir, le dictionnaire. Tiens-toi bien. Mets-toi au fond de la banquette. Tu vas t'asseoir comme ça.
Et est-ce qu'il y a alors cette encyclopédie médicale et sur le français, sur l'usage, difficulté de la langue ou autre?
Dominique.
Oui, ma fille aînée a probablement deux ou trois volumes, enfin qu'elle est seule à consulter comme professeur, oui.
Question 4, ah oui, est-ce que vous, personnellement, vous faites des mots croisés?
Ah, très rarement. Mais je trouve, de temps en temps, quand les enfants ne trouvent pas des mots...
Les définitions, maman.
Ah bon. Et le franglais.
Ah. Ah. C'était quoi sur lui? Il y a tout ce qu'on veut, hein.
Oui, oui, vas-y, maman.
Je trouve que c'est une paresse
oui.
des Français à ne pas avoir ou créé ou remplacé par un autre mot ce qui a été présenté.
Et il y en a qui existent, maman. Il y a des mots français qui ont été remplacés.
Alors, sans être très... On peut dire que oui, non, même c'est même pas le mot. Non, on emploie certainement du franglais assez souvent, mais on pourrait faire attention. Je pense qu'on aurait tout de même le courage, je sais pas, tout adopter. Justement, c'est justement. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. On glorifiait le latin tout à l'heure, alors. Pas se laisser tomber.
Mmh. Et est-ce que, à votre avis, il y a des différences dans la façon de parler selon le milieu?
Ah oui. Oui. Il y a un vocabulaire adapté au milieu social. Ah oui, mais enfin, ça c'est l'un des coups de l'autre. Oui, non, parce que vous avez par exemple des personnes, j'ai remarqué ça souvent au cours de mes conversations, il y a tout de même des personnes qui. Je vois quelquefois. Elles n'ont qu'une certaine catégorie de mots. Vocabulaire. Mm-hmm. Et ça change avec le milieu, la façon dont ils vivent et tout ça.
Est-ce que vous trouvez des exemples?
Ah, comme ça, moi j'ai pas beaucoup de mémoire. Je...
Pour les mots, tu veux dire. L'emploi de certains mots.
Ouais. Mm-hmm. Ou de certaines locutions.
Certaines tournures de phrases.
Ouais, mm-hmm.
Des
mots
plus familiers, ça c'est souvent.
J'ai pas d'exemple, mais enfin, je pourrais dire quand même qu'il y a certaines personnes, si vous voulez, qui emploieront facilement les mots qu'ils entendent ou qu'ils lisent dans les journaux. Et qui ne feront pas l'effort d'avoir, si vous voulez, un peu une tournure de phrase personnelle, une tournure d'expression personnelle. Et ça vient peut-être aussi du milieu de gens qui n'ont pas beaucoup étudié ou qui ne lisent pas beaucoup, surtout. Mm-hmm.
Est-ce que vous trouvez que, d'une façon générale, les gens parlent de mieux en mieux ou de plus en plus mal ou...
De plus en plus mal.
Ah oui?
Oui, tenez, vous auriez été à midi avec la famille à déjeuner, mais les garçons, en général, emploient des expressions qui sont loin d'être françaises.
Ah bon?
Oui, monsieur.
Il y a une différence entre des tours de phrases coptiques qui sont assez employées...
Moi, j'estime que ça n'est pas du français.
Ah bon?
Oui, bien sûr, il y a deux choses différentes.
Mmh. Enfin, non, mais les gens simplifient beaucoup, par exemple, les tournures grammaticales. Mmh. Par exemple, le ne, par exemple, de peur qu'il ne vienne. Les gens ne l'emploient jamais. De peur qu'il vienne. Qu'il vienne. Vienne.
L'usage des pronoms latifs est assez.
Et puis le ne disparaît, le ne explicatif.
Et on fait souvent des interprétations erronées de verbes de temps. Oui. Dans une phrase, oui, énormément.
La concordance du temps,
énormément.
Très peu respecté. On parle d'une façon peut-être un peu, je ne sais
pas dire, raccourcie. Oui, on parle en bande dessinée.
Exactement.
Et puis on parle, on mange aussi beaucoup de syllabes.
Oui.
Ça doit être un petit peu de la paresse.
Et là, c'est justement, on a peur qu'il ne vienne. Avant que ne, on ne le dit jamais. Et là, j'allais vous dire, on le dit jamais. J'aurais dit, on ne le dit jamais.
Voilà. Et tout professeur.
Ah non, mais de toute façon, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois depuis qu'on a commencé à parler.
Oh, certainement, oui.
Il y a toujours une différence. Absolument. Langage écrit et parlé, heureusement d'ailleurs. Et même le langage écrit dans les journaux, juste comme ça,
on et dans les lettres.
Des fautes de français, quelque chose.
Extraordinaire ce que les gens peuvent se permettre dans les lettres.
Ah oui?
Oh oui. Maman nous disait toujours, on ne doit pas mettre ça quand on écrit, on doit mettre le mot tout entier, etc. Bon, on a eu une formation de façon de faire la lettre. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne s'occupent absolument pas de la tournure de leurs lettres.
Ah oui?
Et c'est très dommage.
Mais encore, je trouve que le langage écrit est beaucoup plus surveillé que le langage parlé. Parce que, par exemple, quand j'interroge mes enfants,
ils répondent
comme ça.
Oui, parce que d'abord,
il
y en a un qui est spontané, donc tu ne peux pas te corriger. Si, tandis qu'à la lecture, tu peux tout de même rectifier.
Ils sont drôles parce qu'ils n'ont pas des tournures tout à fait spéciales.
Oui, parce que tu es dans le Berry. Voilà, c'est ça.
Ils ont un accent tout à fait particulier, des tournures de phrases aussi.
Que tu as trop bien,
moi. On ne trouve pas par ici. Et des mots différents aussi. Pour désigner les mêmes choses.
Oui.
Il rajoute des i partout. Où c'est dit que tu vas, par
exemple. C'est très joli d'ailleurs.
Où c'est dit que tu vas, je voudrais l'écrire en phonétique.
Ah, oui. Où c'est dit que tu vas.
Et parmi vos connaissances, voilà, quelle est la personne qui parle le meilleur français? Si vous trouvez quelqu'un.
Oui, mon mari parle assez bien. Je réfléchissais avant de dire, alors que c'est tout de même lui qui m'est sauté à l'esprit tout de suite.
Oui.
Et mon père et mon beau-père, qui étaient un...
Ton père avait un latiniste.
Oui, un latiniste et grec, hébreu, il avait appris le père de mon mari, alors, oui. Qui était même plus âgé que mon père.
Et ton père en
France ? Et oui, grand-père parlait très correctement.
Et en France, est-ce qu'il y a un organisme qui décide si un mot ou si une expression fait partie du français ?
Ah oui, mm-hmm. L'Académie française.
Et l'Institut.
Je pense que vous nous posez cette question parce qu'elle est dans votre petit questionnaire, mais j'espère que vous le saviez. Ce serait beaucoup ignoré des Français si vous saviez pas ça.
Et je suis très content d'avoir votre réaction que j'ai eue en vous demandant s'il existait un organisme.
En général, les Français sont ignares sur ce genre de choses.
Ah bon ?
Je sais pas, je vous demande. Je pensais que vous connaissez.
Je dirai après.
Ou non.
C'est vrai.
Parce que la langue, c'est pour vous. On dit quelquefois que la langue se dégrade.
Ouais, se dégrade dans quel sens ? Ça dépend.
Personnellement, je ne dis pas cela. Mais
oui, mais comment vous l'entendez aussi ? Se dégrade comment ? Parce que justement, on accueille trop de mots de d'autres et ça n'est plus vraiment du français, ou bien parce que les gens ne prennent plus la peine et le temps de bien parler français, ou parce qu'on n'a plus de mots ? Parce que ça, fait... au point de vue des mots, on en a, des niveaux et des...
Il y a toute une catégorie de mots qu'on a laissé...
Non, vous voulez dire, par exemple, si on compare, par exemple, le siècle où vraiment on parlait très bien le français, le siècle fleuri, moi j'appellerais, enfin, et le siècle, le nôtre, qui nous bouscule et que, pour lequel on ne prend même plus le temps de s'exprimer correctement. Je sais pas.
Pourquoi pas.
Oui, ça peut être ça.
Je ne sais pas si elle se dégrade au sens propre.
Non, mais c'est l'usage.
C'est l'usage, oui. Mais la langue en elle-même, je
oui,
ne sais
mais
pas
peut-être va-t-on perdre des mots, justement, par suite de ne pas les employer, quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de les employer, peut-être.
Oui. Et pour ce qui est des communications de masse, est-ce que vous seriez favorable à un contrôle du français employé par les speakers de la radio et de la télévision?
Oh, que oui.
Oui.
Oui. Oh, oui, parce que je vous assure, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez écouté la télévision en France. Ça, c'est une expérience à faire. Une expérience. Eh bien, je vous affirme, je ne sais pas d'où sortent ces journalistes qui présentent le journal télévisé, c'est vraiment lamentable. On est peut-être très sévère, dans la famille en général, on est très critique.
Ah bon.
Mais franchement, c'est lamentable. Hein. Oui.
Toujours mécontent, de toute façon.
Ah non, mais enfin, là puisqu'on parle du français, c'est la question à agiter. Mais c'est vrai.
On n'est jamais content, c'est vrai.
Est-ce que vous voyez des moyens d'exercer un tel contrôle ?
Qu'on choisisse au moins des gens d'une capacité intellectuelle et suffisante pour présenter à l'ensemble. Vous vous rendez compte à combien de millions de Français la langue française ? Quand on y pense vraiment, vous savez, je sais pas, ça me donne un peu chaud, moi. Alors là, on peut dire que la langue se dégrade. Parce que les gens qui ne reçoivent que par la télévision le français, ils ne le parleront que comme ils l'entendront. Alors là, on peut dire que ça se dégradera.
Et sur le plan d'enseignement, est-ce que vous trouvez que la langue française est enseignée aussi bien que lorsque vous étiez à l'école ? Ou mieux, ou moins bien ? Exception faite, évidemment.
De mademoiselle Elisabeth.
Bon,
alors, voyons voir.
Attention, maman, est-ce que tu vas jouer ?
Moi, j'avoue, non, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas très bien répondre. Je pense pas qu'il y ait, si vous voulez, une différence absolument flagrante, non. Mais est-ce mieux, est-ce moins bien? Je sais pas.
là, quand on voit les leçons d'Isabelle, on savait presque le nom d'apprenant. Enfin, je vois pas tellement de
temps. Oh, enfin, il y a guère que 10 ans entre toi et Isabelle, tandis qu'entre moi et Isabelle, il y a quand même un peu plus d'années.
C'est peut-être fait un peu plus intelligent.
Peut-être moins mécanique, moins mécanique, bon, moins monotone.
Et quel était votre meilleur sujet quand vous étiez à l'école, la matière dans laquelle vous étiez le plus fort?
Sûrement pas les mathématiques. Peut-être la rédaction. La rédaction et les dessins de sciences.
Ah.
Les croquis de science.
Les croquis de
science. Est-ce que d'habitude vous avez sur vous quelque chose pour écrire?
Généralement dans mon sac, oui.
Oui, quoi?
Bon, un vulgaire stylo bille.
Est-ce que vous possédez un stylo à encre?
Oui. Mon mari m'en a fait cadeau il y a 9 ans.
Oui.
Comme toi. Aussi vieux que toi.
Ah bon. Est-ce que vous vous rappelez à la suite de quelles circonstances vous avez possédé votre premier stylo à encre?
Très exactement, je ne me rappelle pas, mais je pense que mon premier stylo m'a dû m'être offert par ma marraine.
Ah oui.
C'était un tout petit stylo de jeune fille qui était très joli.
Oui.
En acre avec quelque chose doré.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il est devenu?
Les Allemands me l'ont volé. Pas mal de choses dans la famille. Oh, je ne sais plus exactement à quel point. On est 15 ans.
Et quand est-ce que vous avez écrit la dernière fois?
Hier soir, pour les statistiques du SECODIS, et pour une amie qui a eu la gentillesse de nous faire cadeau de deux ravissantes choses.
Ah bon?
Voilà, dernière lettre.
Oui. Ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à 5 km, est-ce que vous vous déplaceriez ou est-ce que vous écririez?
5 km?
Oui.
Oh, ça dépend. Si c'est quelque chose de très bref et qui ne nécessite pas de déplacement, j'écris. Ou je téléphone si elle a le téléphone, encore que moi, j'ai pas de téléphone. Enfin, je n'ai pas de téléphone. Sinon, 5 km, je me déplacerais bien dans mon vélo.
Est-ce que vous trouvez qu'il est important d'avoir une belle écriture?
Oui. 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 Une belle écriture. Oui, je trouve que c'est très agréable de lire une lettre d'une personne qui a une belle écriture. C'est-à-dire que c'est vous, c'est différent.
Et l'orthographe?
C'est nécessaire, mais tout le monde n'en a pas des masses, et j'ai l'impression que c'est une chose que, malgré tout son bon vouloir, on n'arrive pas tellement à acquérir.
Et est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Tu souffles! Mon professeur, c'est abominable! Non, ça, je n'ai pas beaucoup d'opinions. J'ai fait comme tout le monde, l'horrible dictée sans orthographe. Mais c'est tout. Non, je n'ai pas beaucoup d'opinion. Je trouve que les mots qu'on écrit actuellement, moi, j'ai tous très jolis. Je ne vois pas pourquoi en changer.
Et vous qui êtes une professionnelle de la chose.
Alors, à toi.
Non, moi, je n'aimerais pas. Parce que si on change l'orthographe des mots, qui pour la plupart proviennent du latin ou du grec, on perdra la signification première. C'est très important pour l'évolution sémantique des mots.
Oui.
Disons que ça simplifierait les choses, mais on en viendrait à une écriture phonétique et ce serait encore pousser les gens à la paresse.
Et vous,
oui,
qui êtes dans une autre branche?
Oui, je trouve que notre orthographe, à part, je peux dire, comme des mots qui ont vraiment une origine latine, par exemple, je pense au mot toujours, pourquoi il y en a ce bout, ça ne justifie absolument pas. En fait, si on voulait vraiment... maintenant prendre une orthographe rationnelle. D'un côté, je suis un peu comme ma soeur, ça pousserait encore les gens à la paresse. Ça, c'est d'accord. Mm-hmm. Alors, c'est difficile parce que, du point de vue logique, si vous voulez, du coup, ce serait normal que l'orthographe soit une formule, parce que c'est vraiment pas logique. Mais disons que je suis peut-être conservatrice et que j'ai la formule, ça change.
Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu trouves dans l'orthographe? C'est très important. Est-ce que tu trouves ça facile ou difficile, demande monsieur?
Ça dépend.
Ça dépend.
Mais est-ce que tu aimerais qu'on change, qu'on simplifie, par exemple?
T'aimes assez faire les dictées, hein? Oui, tu fais pas énormément de fautes. Hein.
C'est un petit jeu. Et puis, regardez, par exemple, la langue espagnole. Vous voyez écrit photo et photéo, mais c'est affreux.
Moi, j'ai dit tout à l'heure que je trouvais que les mots, tels qu'on les écrivait à l'actuel, étaient jolis.
Ça, c'est parce qu'on est habitué.
On est habitué, oui.
Oui, puis non, mais regarde, si tu veux chercher l'origine après, tu gardes, que si tu gardes le PH, grec.
D'accord, tu veux me dire ça, c'est ces mots-là qu'on a
fait. Oui, c'est ça. Non, c'est une question peut-être de verbe, par exemple.
Mais quand on voit l'éléphant avec un F.
Oui.
Pareil, ma chérie, c'est pas joli, hein. Tout l'éléphant est par terre s'il y a un F, si on l'écrit avec un F. Il n'y a plus de trompe, il n'y a plus de grandes oreilles, il n'y a plus de petites queues, là.
Éléphant avec un F, ça fait plutôt girafe.
Oui,
c'est ça, il se fait petit comme ça, tout d'un coup, oui, c'est vrai.
Avec deux F.
Parce qu'éléphant, ça, je sais pas, enfin, ça, on a bien l'impression d'un éléphant. C'est parce que l'image est associée au mot, mais enfin...
C'est difficile, parce que
Oui, mais il y a beaucoup de Français qui réclament actuellement la simplification de l'orthographe. Ils voudraient une orthographe phonétique. Presque ça, oui.
Ce sera intéressant de voir ce qui arrivera. Ouais.
Moi, j'en ai parlé à mes élèves une fois incidemment, et bien entendu, ça a été un peu le général. Oh oui, parce qu'ils sont assez mauvais en orthographe.
Ils veulent leur faire la vilaine orthographe.
Mais je leur ai expliqué après l'étymologie et à quoi ça correspondait, évidemment. Alors, il y en a qui m'ont parlé aussi du côté esthétique des mots.
Ah, ils ne sont pas insensibles.
Ah yes. Non. Yeah. Ils sont prêts.
Et qui de votre mari écrit habituellement à vos amis communs?
Moi. Mon mari n'écrit jamais.
Pas même à sa famille, à lui?
Et pratiquement, il n'en a plus. Et quand j'écris, c'est à mes beaux-frères qui sont à Paris, alors c'est moi, et puis sa sœur qui habite Orléans. On lui écrit, voilà.
Oui. Et qui se charge des papiers administratifs?
Mon mari.
Ah bon? Vous avez l'air soulagée.
Oh, si vous saviez. Surtout qu'il a bien l'habitude de toutes ces choses-là. Alors moi, je suis ravie que ce soit lui qui fasse ça. Alors, toujours assez de choses à faire.
Oui.
Ça, c'est vraiment la partie du mari.
Et qui de vous, de votre mari, possède la meilleure orthographe, sans modestie?
Mon mari?
Oui.
Ah oui, ça, certainement.
Et la plus belle écriture?
Ni l'un ni l'autre, on écrit tous très mal, monsieur.
Ah bon?
Oh, mon papa, il écrit mieux que toi.
Oh non, pas possible. Oh, si.
Non, personne n'écrit bien ici. Personne n'écrit bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de page d'écriture et on n'a pas fait de belles anglaises pendant des jours et des jours.
Tout le monde écrit vraiment mal.
Non, mais d'abord j'ai dit que vous, c'était vous. C'est différent, c'est même difficile de porter un...
Mais non, Dominique écrit
bien. Pas une jolie, c'est pas une jolie écriture.
Non, mais moi je confonds toujours Dominique et Catherine avec
Dominique. Ah oui, c'est parce que j'ai une écriture plus récente.
Tu trouves?
Ah oui.
Et qui parle dans le meilleur français?
Qui parle dans le meilleur français?
Question idiote, je sais.
on fait tous quelquefois de bonnes phrases et quelquefois des phrases incorrectes, certainement.
Et quand on écrit?
Ah, mais c'est-à-dire, quand les enfants m'écrivent,
non,
c'est suivant leur caractère, c'est pas une histoire de français.
Il s'agit de vous et de votre mari.
Ah, bon. Non, je vois pas là.
Bon. J'ai un sigle pour ça. Est-ce que je peux vous demander combien de lettres vous écrivez par mois en moyenne?
Environ deux fois à Babette, une fois Catherine quand elle ne revient pas. quatre fois par mois mon Secodis, à des amis au moins trois lettres par oui. Disons en gros une bonne dizaine de lettres par mois.
Non, plus que ça.
Oh, oui,
plus
une bonne douzaine alors dit. Non. Oh, bah, disons enfin écrire une tous les presque tous les deux jours.
Eh ben, c'est presque ce que tu fais.
Oui, c'est peut-être presque ce que je fais.
Alors, si on établit un compromis, ça met une quinzaine. D'accord. Et les lettres personnelles qu'on vous envoie, est-ce que vous les conservez?
Pas toutes.
Pas toutes.
Non, en général, j'estime que puisque c'est une chose du moment, eh bien, après un certain temps, j'ai aucun besoin de les garder. Mais alors, certaines lettres que j'ai mis de côté pour...
Et enfin, tout à l'heure, vous avez fait allusion à la façon de construire une lettre. Est-ce que quand vous écrivez une lettre, vous faites un brouillon?
Absolument pas. J'écris suivant mes idées qui se bousculent et qui vont très vite. Et alors, en général, j'en oublie d'ailleurs. Est-ce que tout le monde fait, je crois bien, en écrivant une lettre?
Est-ce que vous relisez?
Ah oui, toujours. D'abord pour corriger mes éventuelles fautes d'orthographe, et puis j'en laisse. On dit mes filles.
Ah bon.
Eh ben oui, c'est très bien d'avoir des filles qui vous disent comme ça qu'on n'est pas bon en orthographe. On peut peut-être s'améliorer.
Je t'avais fait faites exprès pour les garder sur le qui-vive.
Je crois qu'on n'a jamais dit.
Oh, c'est pas bête ça, tiens. Les filles, vous avez entendu, doit être ça. Inavoué, mais c'est sûrement ça. Non. Non, parce que... Oh, si, non, toi, une fois, tu m'as dit que j'étais brouillée avec les accords de participe. Alors, je relis de temps en temps, je corrige, mais...
Ça m'étonnerait.
Non. Ben voilà.
Et là, vous écrivez avec votre stylo bille.
Oui, en général. Je me sers très peu de mon stylo à réservoir en ce moment parce qu'il doit être réparé.
Ah bon. Et je vous en fais avec quel type de papier?
Du papier vert très très pâle, des enveloppes pareilles, longues. Parce que j'aime beaucoup le vert, qui est le symbole de l'espérance. Même des cartes de visite du même
air. Ah bon?
C'est très discret.
Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser du papier à carreaux?
Oh, jamais! Je trouve ça ignoble et pas poli pour celui qui le reçoit. Enfin, c'est peut-être une histoire un peu personnelle. Non, on nous a toujours habitués à la maison à écrire sur du papier blanc ou sur du papier uni. De temps en temps, de mes filles professeurs, je reçois bien un petit mot sur un papier de cahier, mais ça c'est normal et je ne fais aucune...
On t'écrit ça par exemple pendant un corps surveillé.
C'est ça, oui. Ça doit être chose que vous buvez. Voulez-vous autre chose?
Ah mais non madame, ça va très bien.
C'est vrai?
Oui. C'est parfait. Et si par hasard vous avez à écrire un mot d'excuse à l'école... C'est pareil.
Oui, carte de visite ou la feuille de papier entière.
Pourtant, vous devez en voir.
Oui, des excuses, Babette.
Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de variations?
Oui, ça dépend du milieu d'où viennent les enfants.
Ah bon?
J'ai vu, par exemple, des parents qui m'écrivaient et qui me collaient un timbre pour la réponse, par exemple.
Ah, tendance.
Et j'ai vu une maman qui m'a écrit dernièrement un papier... plié en deux, sans enveloppe, et qu'elle m'a fait porter par son fils. Et j'ai répondu par la poste, dans une, sur papier à lettres normal. Mais j'ai été choquée, parce qu'elle m'a mis un timbre pour la réponse, premièrement, ce qui est normal pour son esprit, mais le fait qu'elle m'ait donné un papier simplement plié en deux par son fils, c'était d'ailleurs tout froissé, tout sale.
Il faut voir un peu si tout ça vient, papa.
Oui, mais justement, c'est ça. Ça ne m'a...
Oui, c'est choquant son nom, mais enfin, je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à ces gens-là. Parce qu'ils n'ont
non,
pas
parce
de,
que manifestement, elle a fait de gros efforts pour être très
correcte, voilà.
Elle et après, je l'ai vue en réunion de professeurs, et elle m'a beaucoup remerciée de lui avoir répondu, parce que c'était un cas assez difficile. Et autrement, j'en ai reçu d'autres, mais enveloppe fermée,
correcte.
Oui.
Ou enveloppe ouverte quelquefois quand il le donne par les enfants.
Est-ce que... qu'il y a des choses qui vous agacent dans le parler de vos enfants?
Oui, ah les bon. Gros mots.
Ah oui?
Oh, c'est vrai, on est vrai.
On s'en sert souvent?
Elle a.
Ah bon?
Les filles s'y mettent. Ah oui. Je trouve ça très vilain pour une jeune fille. Moi-même, j'avoue que je dis quelquefois les salettes, ça va très très vite, et puis quand je suis très en colère ou quelque chose qui ne va pas.
Oui.
Mais non, je déplore que les garçons parlent de cette... oui, jurent et parlent comme ça. Enfin, jurer, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle jurer, vous savez. Le simple... Non, Catherine, il ne faut pas exagérer quand même. Enfin, ce n'est pas plaisant. J'aime...
Quel genre de choses? C'est tout de même pas des flots d'obscénité.
Oh, oh quand même pas. Non, quand même pas. Mais enfin, non. C'est quand même...
Non, il y a
c'est des grossièretés quand même. Ah, oui, très vulgaire. Oui. Très vulgaire, très grossière.
C'est pas souvent.
Ah oui, 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 oui. Oui, oui.
Tu fais tomber quelque chose.
Voilà, c'est ça. Ah, oui. Mais en colère. Oui, monsieur, vous allez tout savoir.
Alors, mettons un cas de crise.
Oui, c'est
voilà.
Ça. Ça pudique, oui, hein. Quelquefois, on décrit quelque très chose pudique. Aussi. Quand on décrit quelque chose qui nous a un peu frappé, on a un peu des termes un peu plus violents.
Cru, violents, oui. Ah, oui. Oui.
Et est-ce qu'on se reprend dans ces cas-là?
Moi, je crie très fort,
très
oui.
Très ironiquement,
ah,
oui.
Ah oui, quand vous vous reprenez vous-même, mais quand je reprends, je crie très fort.
Ah oui.
Sinon, on se reprend, mais hypocritement et ironiquement.
Ah bon?
Oh oui. Oh, c'est très vrai.
Oh, les joies de la vie de famille.
Exactement, monsieur, vous avez tout à fait dit vrai. Les joies de la vie de famille.
Ah bon? Et est-ce que vos parents faisaient attention à votre façon de vous exprimer?
Et aucun gros mot n'était toléré dans la maison. Voilà, alors pourquoi pas chez votre mère? Parce qu'elle est trop indulgente et que passe trop de choses.
Ah bon, j'allais justement vous demander si on prenait des sanctions.
On en a pris. Oui, oui.
Quand ils étaient petits.
Oui.
Parce que nous sommes dépassés par les événements.
Mais on n'a jamais été battus. Jamais.
Pas de sanctions corporelles.
Quel genre?
Très grosse gifle ou fessée.
Oh, rare, très rare.
C'est tout. Mon mari n'a jamais admis combattre un enfant. Peut-être parce qu'il a été très malheureux étant jeune.
Oui.
C'est peut-être pour ça, mais il n'a jamais admis combattre un enfant. Une fois, une grosse fessée comme ça, mais je ne m'appelle pas battre un enfant.
Sanction morale.
Oh, ben moi, j'ai des petites amies, leur maman, elle est
bas. On m'approche.
Alors, c'est plutôt la guerre psychologique.
Oui, voilà. Oh, absolument. Oh, oui, c'est ça.
Et est-ce qu'on prenait des sanctions contre vous, du moment que vous lâchiez un mot?
C'est-à-dire que je ne me souviens pas d'en avoir lâché. J'ai dit une fois à ma pauvre maman, oh, qu'elle bat, parce qu'elle me demandait pour la centième fois un service. Pendant 3 jours, je n'ai pas pu la regarder en face, parce que j'avais certainement, je m'étais damnée.
Voilà. Ah bon?
Ah si, c'était terrible. Non, maman était très, très dure. Très, très dure. On n'a pas le même climat dans la famille.
Heureusement.
Oui.
Je ne sais pas, c'était l'air. T'as pas été beaucoup traité avec dureté jusqu'à présent.
Ça, c'est rassurant. En cas d'accusation, j'ai
vous direz, n'est-ce pas, que dans les familles françaises, on ne martyrise pas les enfants.
Oui, ça dépend.
Je n'ai pas encore trouvé de bureau d'argent.
Oh, il n'y a vous peut-être pas.
Non, il en existe malheureusement certainement.
Je sais que j'ai été gardée des enfants dans certaines familles et le père administrait des coups de ceinture à sa fille parce qu'elle revenait avec un jaune de l'école, c'est-à-dire une mauvaise note, pas de discipline. Des coups de ceinture.
Ah, oui, et maman,
vous n'êtes pas pour la férule, monsieur, ce que je vois. Vous n'êtes pas pour la férule.
Je trouve ça dégradant.
Absolument, je trouve ça épouvantable. Et je connais même des professeurs qui se sont permis de gifler leurs élèves en classe.
Vous voyez, à 9 ans, quelle expérience elle a déjà, n'est-ce pas? Elle pourrait en dire. Pour vous appeler.
Même des enfants assez âgés, en fait.
Non, des jeunes filles de 18 ans qui reçoivent une gifle de leur mère, je trouve que c'est... c'est vraiment agir contre elle. C'est vraiment briser toute possibilité d'entente entre la mère et la fille.
Chose d'anormal.
Je crois que ça se fait beaucoup plus qu'on ne peut le croire. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit que ça leur arrive pas encore de se faire des chiffres de leurs parents à 18 ou 18 ans. Vraiment, dans des cas extrêmes, d'accord.
Mais enfin, pas tout de même, elle les avait reçus.
Mais moi, par exemple, j'ai certaines élèves, quand je m'approche d'eux et que je les gronde, automatiquement, je vois un mouvement de recul. Ça, c'est quelque chose qui me fait mal.
Ouais.
Et je sais qu'ils sont battus chez eux. Mmh. Et ça arrive assez souvent.
Mais je crois qu'on dans certains bat milieux. Assez souvent dans les milieux un peu frustrés. Mmh. Je pense.
Et même des mamans assez nerveuses qui giflent leur
fille. Ah oui, d'accord. Enfin.
Je vais ajouter au questionnaire, combien de fois par semaine battez-vous vos enfants?
Oh, c'est pas vrai.
Ah non, je pense l'ajouter.
Ah, bon, on pense l'ajouter.
Zéro fois par semaine, jamais.
Bien. Mieux comme ça. Et on passe au troisième tome, qui est surtout pour le contrôle statistique. Vous avez un poste radio.
Deux,
trois.
Ah oui, un transistor, mais ça compte peut-être pas.
Ah, ça compte.
Oui, oui. Alors. Un vieux, un Grundig et un transistor. Enfin, il est du vieux par large. Il marche pas.
Il marche très bien.
Et vous écoutez beaucoup?
Beaucoup de musique classique.
Oui. Quelle chaîne?
FM.
FM, donc c'est France Musique.
Oui.
Et un poste de télévision?
Oui, deux chaînes très récents.
Est-ce qu'on écoute ou regarde, je ne sais jamais quel verbe employer au sujet de la télévision?
Les deux. Ah, ben voilà, après un nouveau mot.
Oui, est-ce qu'on audiovise?
Ah, oui, bon. Quand les enfants sont en vacances, peut-être plus. Oui. C'est assez divisé. Il y a des émissions que j'aime pas du tout, je ne les regarde pas, telles les variétés stupides.
Les parents regardent surtout les films, les pièces de théâtre.
Ah bon,
et oui. Les émissions,
et puis alors, des émissions
de médecine.
De médecine et
des concerts.
Les concerts. Puis aussi les
dessins. C'était très intéressant. Avec l'ando.
Oui, oui. J'aime pas ça du tout.
Moi, j'ai pas trop regardé ce truc.
Tripoter.
Mais non, pas du tout, justement. Cette fois-ci, c'était très intéressant parce qu'il n'y a pas de malade.
L'endoscopie.
Oui. Vous l'avez vu peut-être?
Un petit peu. C'est plus propre.
Ah oui, d'accord. Non, c'est une chose que j'ai regardée avec beaucoup de curiosité et sans ressentir vraiment de malaise. C'est
une fois, j'ai c'est vu une intéressant.
Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà, une des merveilles sur les vraiment quelque chose que je trouve merveilleux. La chirurgie. C'est vraiment quelque chose de merveilleux.
Pourtant, je voudrais être
quand il faut que tu le fasses toi-même, c'est pas drôle.
Ah, mais je ne dis pas la même, je ne dis pas pareil. Alors que tu t'habitues, mon chéri.
Mais je voudrais égouler autre chose.
Oh, ça va changer, c'est jusqu'à ce qu'elle soit décidée.
Péricultrice.
Quoi?
Péricultrice. Il faut lui expliquer pourquoi. Puère, en latin, ça veut dire enfant. Alors, puéricultrice, celle qui cultive les petits enfants.
Et comme dans les pépinières.
Oh zut!
Le meilleur des mondes, tu l'as pas lu?
Oui, si je l'ai lu. Quelque chose d'ignoble.
C'est intéressant.
Non, ça, c'est ignoble comme
livre. Justement, heureusement, c'est ignoble. Ça fera peut-être réfléchir un peu déjà.
Oui, si ça.
Vouloir
ça
vivre en con. En...
Ça fait rejeter.
Oui, contre vraiment la nature humaine, dans tout ce qu'elle est vraiment.
Mais je crois que, tu sais, maman, c'est une belle utopie. Enfin, une belle, une laide utopie, si tu veux.
Laide utopie, ça, d'accord.
Et le cinéma?
Et deux ou trois fois par an pour des films vraiment.
Drôles.
Valables. C'est pas bien de dire valable, d'ailleurs, je cherche un autre mot, je ne sais pas trop. Qui nous intéresse ou qui présente une détente, vraiment, vous savez, quelque chose de très drôle. Même un peu bête, mais très drôle.
Oui.
J'aime bien même un peu.
Et je note en toutes lettres, si vous me permettez.
Même un peu bête, si c'est très drôle.
Et est-ce que vous estimer que la radio, la télévision, le cinéma, ces médias, pardon, moyens de communication, peuvent être des instruments de culture.
Oh oui, certainement, oui.
Est-ce qu'ils le sont?
Non. Les programmes à l'heure actuelle, là, non. On nivelle par le bas, on n'éduque pas en tirant les gens vraiment vers le mieux, vers le meilleur, vers le
bon, le cinéma.
Je ne dis pas pour tout, mais dans l'ensemble, en général, tu as des émissions très médiocres qui ravalent les gens vraiment au point de vue distraction, c'est quelque chose d'affreux.
Ou alors les émissions qui sont, disons, culturelles sont ennuyeuses
aussi. D'abord, ou alors tellement extraordinaires ou qu'ils se veulent extraordinaires que... Peut-être aussi très conservateur. L'opinion personnelle.
Pourquoi pas? C'est l'opinion personnelle, c'est la norme. Alors, la photographie, vous avez travaillé la photographie.
La retouche. Pas la photo au point de vue développement, agrandissement, etc. Non, je retouchais les plaques de photos pour faire disparaître certaines défectuosités. Alors, dans un portrait, surtout dans les portraits particulièrement.
Ah oui.
Oh oui, si j'en ai fait.
Pourquoi tu leur...
Non, je les arrangeais bien, ils étaient beaux, de véritables Adonis. Si tu pouvais envoyer ça à leur famille, ils étaient bien en France.
Ma maman, t'as eu tort là.
T'aurais dû leur faire des gros...
Non, c'était défendu, ils n'auraient pas payé leur photo au photographe. Le photographe, il m'aurait dit, mademoiselle, la porte.
Faut garder le client.
Allemand ou non. À ce moment-là, ils vivaient comme ça.
Est-ce que vous avez fait un peu de photos?
Non, très peu. Très peu. Mon mari en fait beaucoup et
de
très belles.
Quand on fait, sont des fois bien, des fois plus
tranquilles. C'est ça. Oui, ah, oui, j'ai pas beaucoup de milieu. Non, la photo, vraiment, non.
Mais par contre, la peinture, le dessin...
Oui, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'aurais eu certainement plus l'occasion d'en faire. Ça serait amélioré. En plus, j'ai perdu beaucoup pendant la guerre, parce que les Allemands m'ont volé absolument tout ce que j'avais.
Et vos peintres préférés, en fait, des peintres ou des écoles qui vous touchent?
C'est assez... J'ai une assez grande gamme, je ne peux pas dire vraiment. J'aime beaucoup les Flamands, j'aime bien l'école française de certaines époques. D'accord. Je ne déteste pas certains contemporains, Manet, très très jeune. On les a
vus. C'est vrai?
Oui, ils ont donné pour les enfants une petite rétrospective de ce peintre et ils ont donné les Nymphéas.
Et la musique? Est-ce que...
En principe, la musique classique, mais je m'efforce honnêtement d'écouter quelques musiques modernes pour voir si j'arrive à la comprendre.
Par musique moderne, vous entendez quoi?
Barrès, Boulez,
Xenakis,
etc.
Même un peu plus... Non, mais même un peu plus...
Moins contemporain. Moins un peu moins...
Non,
Cuillet.
J'aime pas, non, pas du tout, pas du tout, c'est un ancien.
La génération de
la musique des Russes classiques, presque,
Cuillet.
Je ne
sais pas si je voulais dire, mais il y a des trucs...
Ravel, il est quelquefois déconcertant.
Oui, mais enfin, Ravel, c'est presque un classique, maintenant.
Olivier Messiaen.
Poulenc, Messiaen. Pour Ravel, certaines... Ah, monsieur, oui, si, pour certaines de ses œuvres, Ravel est classique.
Ah, si. Ah, je suis d'accord.
Mais je n'aime pas tout Ravel, ça, loin de là.
Debussy.
Ah, Debussy, si. Debussy.
Pourtant, c'est fondamental.
Oui, mais vous avez du Debussy extrêmement équilibré, serein, qui est très beau, qui est vraiment, qui vous apporte quelque chose.
Moi, je trouve ça drôle que vous pensiez ça alors que vous n'écoutez pas la musique moderne. Pour moi...
Il y a une très très grosse différence.
Il y a une grosse différence.
J'écoute du Olivier Messiaen, ma pauvre Catherine, mais il y a toi à avoir les nerfs qui se font des nœuds tous les 3 cm.
Pas Messiaen.
Pas
tout le temps, d'accord.
La construction de la musique.
C'est pour ça que je dis que je m'efforce d'écouter quelques modernes parce que j'estime que il y a peut-être 20 ans, 25 ans, Debussy, non, pour moi, c'était quelque chose de presque inaudible. Encore que je reconnais qu'il a qu'il est mélodique. Alors peut-être que dans les modernes, j'arriverai à trouver quelqu'un qui a une petite ligne mélodique et qui me plaira.
La direction, ça compte beaucoup aussi. Enfin, Debussy, quand c'est dirigé par Boulez, c'est une révélation.
Peut-être aussi certains morceaux mal joués ou qui n'ont pas du tout d'éclat, qui n'ont pas de relief, si vous voulez, peuvent vous paraître vraiment insignifiants et inexistants. Et le même joué par quelqu'un qui vraiment a compris la musique,
très bien arrivé. J'ai décidé d'entendre précisément la mer.
Oui.
Avec toute sa tradition d'aquarelle,
oui,
dirigé par Boulez, oui. C'est toute autre chose. On voyait qu'il y avait une structure très rigoureuse derrière. Oui.
C'est une expérience que j'ai pas, parce que j'ai pas entendu par ce chef d'orchestre, mais enfin.
Est-ce que vous allez au concert?
Jamais, parce que. Parce qu'on se dérange pas.
Ah bon?
Mais on écoute beaucoup, beaucoup de musique.
Oui. Vous y avez emmené quand même
des disques, des choses. Bah oui, mon papa faisait partie du conservatoire et on a eu quand même des concerts intéressants. Oui. Enfin, faut dire aussi que vous voyez une chose qu'on réclame beaucoup à Orléans, c'est tout de même un niveau un petit peu plus relevé. Je sais que ça n'a pas de mal à le relever un petit peu plus du conservatoire. Et justement, des concerts qui donnent. Qui font donner. Oui, mais on n'a pas une salle bonne et un acoustique terrible. Alors donc, les concerts sont perdus par le fait. On peut faire venir de bons interprètes, mais si on ne les entend pas.
Quand ils sont dans des cas, ils ne peuvent pas
attendre. C'est pas, oui, mais
ça va, mais ça va, je ne peux pas entendre rien.
Oui, pourtant, on a encore
une salle de résonance. Voilà, c'est pas la chose d'être au premier.
Ah non, pas toujours, tu sais.
Et le théâtre?
Eh bien, le théâtre, non. On a quelques souvenirs épiques de théâtre pendant la guerre, mais enfin, dehors de ça, non, on ne va pas au théâtre. Mon mari n'est absolument pas mon
théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, vous voyez les pièces présentées à la télévision.
C'est pas tellement casanier, c'est qu'il a beaucoup d'autres centres d'intérêt.
Oui.
Mais par exemple, vous avez connu Ionesco ou, je ne sais pas, moi, à la télévision.
Ah, mais oui, mais justement, à la télévision, Apple, d'ailleurs. On l'a pris justement au moment où on ne pouvait pas sortir. Et
il y a eu quand même quelques pièces.
Quand même quelques pièces, très bien. Ah, mais moi j'aime
pas
bien
la même
le théâtre.
Chose que d'aller au théâtre.
Ah oui, certainement, ça je reconnais. Oui, c'est très différent.
Oui, mais enfin, le théâtre que vous avez à travers la télévision. Parce que, encore une fois, il y a des auteurs ou des écoles, ou des genres.
Non, moi en général dans le théâtre, je dis après j'aime ou je n'aime pas, mais je prends assez de plaisir à écouter une pièce ou à la découvrir, ou oui, vraiment. Il faut vraiment que ce soit un navet tel que tourne le ton, on dit non, je n'ai pas envie d'entendre ça.
Oui. Et la presse? Vous me dire les journaux, les périodiques que vous lisez régulièrement?
Le journal de la localité.
Oui, je lisais
tout à fait.
Et
pas ça.
Parce qu'il y a deux journaux à Orléans. Il y a la République du Centre, qui est vraiment le journal d'Orléans. Et il y a la Nouvelle République, qui est le journal du Centre. Et il y a une édition dans chaque grande ville, Orléans, etc. Et nous, on prend le journal du Centre.
La Nouvelle République.
Ah bon.
Pas la République du Centre. Parce que mon mari trouve qu'elle a un esprit différent. Qui rejoint d'ailleurs maintenant.
Bon, enfin. C'est une autre chose politique au départ.
Voilà. Oui.
Il y a le Monde aussi.
Et mon mari prend le Monde. Alors comme autre chose, on prend Alpha.
Universel.
Mais non, on en a pris beaucoup à un moment, mais ça finit par être très piteux. Et puis enfin.
Lecture pour tous.
À Lecture pour tous.
L'écho de la mode.
Ça c'est le journal.
Tintin, c'est Antoine qui l'achète tout à l'heure.
De temps à autre, tous les mardis ou les mercredis.
C'est vrai? Il fait acheter par sa petite sœur, pour pas des
sœurs.
Là, on se met dans le chien Tintin et
Billy. C'est pas vrai.
Enfin, Tintin, il n'y a pas.
Puis on lit aussi un journal. On lit aussi un journal qui nous est.
C'est devenu bête.
Oui. Oh oui, oh, ça fait très. Oh oui, beaucoup changé.
De mon temps, c'était bien.
On lit aussi un petit périodique qui est fort intéressant et qui est une très grande presse à l'heure actuelle, c'est La Vie catholique. Et qui est très, très, très bien fait. En dehors de toute question religieuse, mais il est très bien fait. Très bien. Très bien présenté et très bien fait.
Et les lectures plus générales? Est-ce que vous avez le temps?
Pas beaucoup cassé, mais je relis quelquefois des livres que j'ai lus qui m'ont plu. Et puis alors, moi personnellement, je ne m'achète pas de livres, je le regrette beaucoup, c'est peut-être une des choses que je pourrais faire d'ici quelques temps. Mais je lis un peu de tout, si vous voulez. Je crois qu'on n'a pas vraiment une orientation de... Oui.
Et puis la toute dernière question à laquelle vous répondez oui ou non, si vous acceptez de répondre, si vous préférez répondre, ça fait rien. Est-ce qu'il y a un parti politique qui corresponde à vos opinions?
Lesquelles? Moi, personnellement, oui. À l'heure actuelle?
Oui, et c'est une question, et la réponse, je vous demande une réponse par oui ou par non.
Ah, par oui ou par non, bah, alors c'est non.
Bon, dans ce cas-là, les sous-questions suivantes ne se posent pas.
Oh, ça n'a pas été un supplice, je dis absolument pas.
Non, vous avez été très, très aimable. Et surtout d'avoir...
Mais non, vous voyez, c'était beaucoup plus agréable que de faire un interview comme ça sans... Non, c'était très bien. Puis alors, ça vous a permis justement de voir un peu ce que les jeunes pensent. Et c'est ça le plus intéressant tout de même.
Vous ne faites pas justice.
Non, je veux dire tout de même que le plus intéressant, je pense, pour vous qui êtes tout de même parmi les jeunes, puisque vous êtes professeur vous-même, eh bien, c'est tout de même de voir un peu ce que les jeunes pensent. D'un bord ou d'un autre. Oui, mais c'est tout de même la France qui vient. Nous, après, ça va être fini, ma poulette.
De toute façon, vous n'avez des gens qu'à partir de 21 ans, si vous avez l'électorat.
Oui, c'est cela.
Alors, de toute façon, vous avez...
Alors comme ça, on rajoute...
Oui.
Non, nous avons des délais supplémentaires précédemment.
Ah oui, mais justement, vous voyez, c'est pour ça, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir...
C'est le niveau post-scolaire. Parce que le critère de base que nous avons imposé pour l'échantillon, c'est qu'il fallait que chaque témoin ait fait toute son éducation en France.
Ah oui, oui, pour vraiment avoir
pour
une teinte française.
Pour éviter les immigrés. Pas par xénophobie, mais uniquement parce que
oui,
ce qui
parce
nous intéresse,
que c'est
les Français. Et il paraît qu'il y a toujours un pourcentage assez considérable d'immigrés.
Oui. Oui, surtout une certaine catégorie, les Algériens,
les Espagnols,
ceux qui sont plus malheureux et qui viennent en France.
Il y en a une quantité considérable qui viennent en France. Considérable.
Je veux dire, c'est ceux dont le niveau de vie d'accord, c'est les Français,
parce
qu'on
n'a
pas d'allemand, pas d'anglais.
Oui, ça c'est vrai.
Ça, vous avez beaucoup d'envie en ce moment.
Oui, pour les vacances de Pâques.
À tout,
j'en ai
dit
beaucoup.
Et puis à tout, il y a l'Institut pour les étrangers, alors nous avons. Mais.
Je me demande si
vous descendez où comme ça quand vous venez en.
Puisque nous sommes en.
C'est très spécial cette année.
Problèmes,
oui, justement.
Alors,
oui.
Ça dépend de l'hôtel. S'il y a un hôtel qui peut.
Vous recevoir tous ensemble.
Oui, qui peut nous donner non seulement assez de chambres, mais aussi
oui.
Des facilités de bureau.
Ah oui, c'est ça, oui, parce que vous avez besoin de. Oui,
vous avez besoin, par exemple, de bureaux.
Oui. J'ai téléphoné une fois et j'ai pas pu avoir le numéro. Enfin, je l'ai eu, mais il n'a pas répondu.
Le numéro qu'il y avait sur la carte.
Oui, qu'il y avait sur la carte.
Ah, ça, c'est le numéro de CRDP.